Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La tension reste vive entre l'Iran et Israël qui n'a toujours pas lancé sa réponse armée après les attaques de drones et de missiles tirés depuis la République islamique. Il y aura une riposte, affirme le chef d'état-major de Tsahal. On va l'entendre. On verra qu'en France, les soutiens objectifs du Hamas redoublent d'efforts avec notamment une conférence à Lille organisée par la France Insoumise avec comme logo la négation de l'État d'Israël. Jusqu'où iront-ils? On va en débattre ce soir. On verra aussi le beau visage lumineux du jeune Français qui s'est interposé en Australie lors de l'attaque terroriste au Cuckoo dans un centre commercial ce week-end. Le président Macron l'a remercié. Le Premier ministre australien lui a même offert la nationalité du pays. Je ne sais pas si on va voir son visage. En tout cas, on le verra dans un instant. Il y a d'un côté les héros et de l'autre les zéros. Hier, à Schiltigheim, dans la banlieue de Strasbourg, un délinquant de 17 ans, en plein refus d'obtempérer, a foncé sur un policier qui a tenté de s'interposer avant de le poursuivre malgré ses blessures. Le courage de cet agent municipal force le respect. Il est lui aussi un héros du quotidien. Voilà pour les grandes lignes de nos débats dans cette première heure de Punchline. Mais d'abord, c'est Simon Guélin pour le rappel des titres de l'actualité de 17h. Simon.
À l'occasion des 80 ans de la libération, Emmanuel Macron est dans le Vercors cet après-midi. Le président de la République rend hommage aux combattants de ce maquis, l'incarnation d'une France indissociable de la République, selon le chef de l'État. Le Hezbollah revendique le lancement de 2 drones explosifs dans le nord d'Israël. Le mouvement libanais affirme avoir frappé les rampes de lancement du dôme de fer. Et dans le même temps, une source proche du Hezbollah affirme qu'un commandant a été tué dans un raid israélien dans le sud du Liban. Depuis ce matin, une cyberattaque paralyse l'hôpital de Cannes. Toutes les opérations non urgentes ont dû être reportées sur place. Le centre hospitalier a pris la décision d'activer une cellule de crise en lien avec l'Agence régionale de santé. Tout le personnel est mobilisé, bien sûr, pour mener les investigations nécessaires et contenir cet incident, Laurence.
Simon Guilin, et à l'instant, l'armée israélienne confirme avoir tué un commandant du Hezbollah dans une frappe au Liban. Voilà ce que vous nous disiez il y a quelques instants. On est en plateau avec Louis de Ragnel. Ça va, Louis?
Bonsoir. Bonsoir, Laurence.
Avec Rachel Kahn. Bonsoir, je rappelle Laurence. Le titre de votre livre, Encore debout, la République à l'épreuve des mots. C'est aux éditions de l'Observatoire. On aura l'occasion d'en reparler aujourd'hui. On a le plaisir d'accueillir Léa Landman. Bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste des questions de diplomatie. Bienvenue dans le plateau, sur notre plateau, avec Sabrina Medjeber, essayiste, Alexandre Devecchio, journaliste.
Bonsoir.
Alors, l'actualité est lourde, elle est chargée. C'est pour ça que j'avais envie de commencer par le visage d'un héros, celui de Damien Guéraud, ce Français qui a tenté d'arrêter l'assaillant lors de l'attaque terroriste de Sydney ce week-end dans un centre commercial. À l'aide d'un poteau, il a affronté le terroriste. On fait le point avec Solène Boulan et on verra le visage de notre Damien Guéraud, héros national.
Il est considéré comme l'un des héros de l'attaque du centre commercial de Sydney. Cet homme, posté en haut de l'un des escalators et muni d'un poteau, tente de repousser l'assaillant et son périple meurtrier. Son nom, Damien Guéraud, le Français dont l'Australie salue désormais le courage. Surnommé le héros au poteau, le jeune homme se trouvait avec un ami français le jour de l'attaque. Interrogé sur une chaîne de télé australienne, Damien Guéraud déclare.
On a essayé de l'attraper, mais il descendait les escaliers. On l'a suivi en essayant de lancer le poteau dans sa direction, mais nous n'avons pas réussi. Nous n'avons pas réfléchi, c'est l'adrénaline. Ses yeux étaient vides, comme s'il n'était pas là.
Damien Guéraud, dont le visa expire en juillet, a été remercié en personne par le Premier ministre australien.
Vous êtes le bienvenu ici en Australie. Vous êtes le bienvenu pour rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Nous sommes prêts à l'accueillir en tant que citoyen australien, même s'il s'agirait bien sûr d'une perte pour la France. Nous le remercions pour son courage extraordinaire.
Le geste de Damien Guéraud et de son ami a aussi retenu l'attention d'Emmanuel Macron, qui les a félicités via un message posté sur X.
Condoléances aux Australiens frappés samedi par une attaque dans un centre commercial à Sydney. Deux de nos compatriotes se sont comportés en véritables héros. Très grande fierté et reconnaissance.
Depuis samedi, les hommages se multiplient aux abords du centre commercial, où 6 personnes ont été tuées lors de l'attaque.
Voilà, on va entendre dans un instant le témoignage de Damien Guéraud qui s'est interposé assez courageusement. On disait il y a quelques instants avec vous, Alexandre Devecchio, dans ces cas-là, on ne sait pas comment on réagirait si on était nous-mêmes confrontés à une attaque terroriste. Et c'est ce qu'il a dit, il ne faut pas réfléchir en fait, il faut tout de suite se lancer dans l'action et tenter de faire quelque chose.
Il a dit c'est l'adrénaline, mais l'adrénaline ne doit pas masquer son courage. Effectivement, il faut le saluer. Ça veut dire que la société a aussi des anticorps pour se défendre face à la barbarie. Je pense qu'il ne faut pas tendre l'autre joue, effectivement, il faut se défendre. Moi, j'ai été frappé aussi par la réaction du chef de l'État
australien.
Australien, oui, parce que nous, on avait notre propre héros au sac à dos, mais souvenez-vous...
Henri Dansel,
je cherchais son nom, mais souvenez-vous, à l'époque, on l'avait salué comme un héros, notamment sur cette chaîne, et puis d'autres... d'autres médias avaient un peu cherché sur son passé.
Vous parlez de Henri ?
Oui, de Henri, chercher sur son passé catholique, etc.
Oui, c'est son présent, d'ailleurs.
Et
c'est son présent aussi.
Son passé, son présent, et j'espère son futur.
On faisait presque un passé négatif.
Un passif.
Exactement, de ternir son acte. Et là, on voit un Premier ministre australien qui dit, qui salue le courage et qui dit même que ça manquerait...
Ça serait une perte pour la France.
À la France, et ça me paraît un réflexe effectivement plus digne et plus susceptible également. Également, finalement, de faire reculer ce genre de terroristes, même s'il n'y a rien qui les fait reculer, mais ce sont des gens qui respectent
la France, devant eux,
qui respectent malheureusement que France et qui méprisent la faiblesse. Donc, c'est pour ça que c'est très important qu'une société...
Ça vous inspire, en tout cas, Alexandre. Vous êtes très loquace sur cette question.
Non, mais j'ai juste une pensée pour Charles aussi, qui disait qu'il préférait mourir debout que vivre à genoux. Et je pense que c'est...
Évidemment, hommage.
C'est juste.
À la rédaction de Charlie Hebdo. Je disais qu'il y avait des héros et des zéros. Lui, c'est vraiment un héros, Louis de Ragnel, notre Français qui s'interpose en Australie.
Oui, clairement. Enfin, c'est un acte héroïque. Je trouve que ce qui est assez intéressant, c'est que très souvent, quand on voit des gens qui font des actes héroïques, ils disent toujours que c'est l'adrénaline, qu'ils n'y sont pour rien. Moi, je crois qu'il y a des valeurs intrinsèques et il y a des gens aussi qui ont des bons réflexes, des gens qui prennent leur courage à deux mains et qui savent aussi qu'il y a quelque chose qui les transcende et que peut-être un goût incommensurable de la vie, ça peut être aussi le courage, la volonté de sauver les autres.
On se pose toujours cette question-là, parce que il y a la question de qu'est-ce que j'aurais fait pendant la Seconde Guerre, j'aurais été résistant. Voilà, c'est des questions que tant qu'on n'est pas confronté à la situation, on ne peut
c'est
pas
dire. C'est très difficile de savoir comment on réagit.
Rachel, je suis sûre que vous seriez jeté sur la saillie en vous. Avec votre courage.
On ne sait pas, effectivement, on ne sait pas, mais après, ce qui sort, c'est... Peut-être son humanité quand on voit des situations. Après, je pense que lorsque on sort, je crois qu'il y a un effet d'entraînement où tout le monde peut aussi se lever contre un assaillant. J'ai une pensée aussi par rapport à Alassana Abatili,
Oliver
Kacher, qui était notre héros national. Après, dans les mots du président, c'est vrai qu'il y a des philosophes qui l'analysent, ce manque de courage aujourd'hui de nos sociétés, et peut-être qu'après la fuite des cerveaux, il ne faut pas qu'il y ait une fuite du courage.
La fuite des héros. Et c'est pour ça qu'il faut de temps en temps célébrer la figure du héros. On va juste l'écouter, Damien Guéraud. Je passe la parole à Sabrina et Léa pour savoir ce que vous en pensez. Damien Guéraud.
J'ai essayé de l'attraper, mais il descendait des escaliers. Nous l'avions suivi depuis l'étage du dessous pour éventuellement lui lancer la borne dessus, mais ce n'était pas possible. Nous avions besoin de quelque chose pour l'attraper. On n'a pas réfléchi sur le moment. Il est impossible de penser à ces moments, c'est de l'adrénaline pure. Ses yeux étaient vides. C'est comme s'il était totalement vide de l'intérieur.
Il n'était pas là, Léa Landman. Ça force le courage, le respect en tout cas, ce courage.
Ça force le respect. On aimerait tous penser que dans ces moments-là,
on aurait tous pareil.
Mais je rejoins Rachel. Je pense qu'il y a aussi un effet de mimétisme qu'on l'a vu tellement de fois chez d'autres citoyens réagir, agir. On se dit que c'est possible, à l'inverse que quand on a vu, par exemple, le premier tir de masse aux États-Unis, Columbine, par exemple. Première chose qu'on se dit, c'est qu'en fait, ça va créer un effet de mimétisme. Et je pense que c'est une des analyses qu'on fait aux États-Unis, que plus on le voit, plus on le répète. Donc, à l'inverse, plus on voit des actes héroïques, plus on peut les copier, en fait.
Donner un exemple et un modèle.
On est peut-être conditionné plus facilement à réagir comme ça.
Sabrina, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Moi, je pense que tout le monde a raison autour de ce plateau. Il y a effectivement une part de spiritualité, il y a une part d'éducation aussi, religieuse. Il y a aussi une part d'éducation familiale qui vous apprend ce que c'est qu'un surmoi, ce qui vous apprend ce que c'est que le dessus de la valeur individualiste qui vous apprend ce que
vous savez, quand vous pensez qu'on vous l'apprend, ça, vous l'avez pas de façon innée.
Je pense qu'il y a des parents qui éduquent à l'altérité, au danger, à faire le bien, qui intériorisent des interdits, qui apprennent à leurs enfants si quelqu'un est en danger, aide-le, qui apprennent l'altruisme, le surmoi général. Donc je pense qu'il y a aussi effectivement une forme d'éducation qui peut être un soubassement dans ce tropisme-là de courage.
Il y a une part d'éducation, mais je pense qu'il y a une part de ce qu'on a au fond de soi.
Tropisme très reptilien.
Intrinsèquement, c'est courage ou pas courage, et ça, parfois, on ne choisit pas. On va voir qu'il y a des menaces d'attentats terroristes en France également, après notamment l'attaque lancée par l'Iran sur Israël. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a demandé au préfet de sécuriser tous les lieux de culte juifs à l'approche des fêtes de Pessah, qui sont les Pâques juives, parce que la menace pèse de façon constante désormais sur nos compatriotes juifs. Exemple à Strasbourg, avec Augustin Donadieu et Maxime Lebey.
Près de 3000 km séparent cette synagogue à Strasbourg du dôme de fer israélien, ici à Ashkelon. Pourtant, l'attaque conduite par l'Iran sur Israël a des répercussions directes jusque sur le sol français. Depuis hier, la sécurité devant les synagogues et les écoles confessionnelles a été renforcée, ordre du ministre de l'Intérieur. Une menace permanente qui pèse sur ces Français de confession juive qui ont dû changer leur mode de vie.
C'est sûr qu'on est beaucoup plus vigilant qu'avant, ça c'est sûr. On fait plus attention où on va, on fait attention avec les enfants, on fait attention à ne pas trop traîner pour rien dans la rue, etc. Ça c'est sûr.
Pour le président du consistoire israélite du Bas-Rhin, les attaques qui touchent Israël ont un objectif de terreur bien précis.
Le message du 7 octobre, le message de l'attaque de l'Iran samedi soir, c'est de dire, bien, vous juifs du monde entier, sachez que vous n'aurez pas un répit sur aucune terre de ce monde.
La Pâque juive, également appelée la fête de Pessah, sera célébrée pendant une semaine, à partir du lundi 22 avril.
Louis Dragnel, c'est vraiment, il y a une alerte massive sur les lieux de culte juifs jusqu'à lundi, ou c'est permanent en réalité?
Alors, déjà, c'était permanent même avant le 7 octobre. Il y avait beaucoup de véhicules de police et même sentinelles, les patrouilles, les consignes étaient données aux militaires de circuler, de faire ce qu'on appelle des patrouilles dynamiques devant à la fois les écoles juives et les synagogues. Mais effectivement, depuis 7 octobre, il y a eu une explosion des menaces. Il y a eu aussi, forcément aussi, une augmentation des protections policières accordées par le ministère de l'Intérieur pour des personnalités menacées de mort. Et puis on voit bien que tout est en train de s'amplifier. La difficulté, c'est que tout est prioritaire. Vous avez donc les synagogues et les lieux de culte juifs qui sont menacés. Vous avez les lieux de culte chrétiens, les catholiques, les églises à protéger. Il y avait des consignes qui avaient été données d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur juste avant la Semaine Sainte jusqu'à Pâques. Et on a l'impression qu'on est dans des effets de
seuil.
Donc ce qui est en train de se mettre en place là pour la Pâque juive va en fait devenir la norme pendant je ne sais pas combien de mois ou combien d'années. Et ça coûte énormément au ministère de l'Intérieur parce que on voit bien il y a les Jeux Olympiques qu'il faut organiser, qu'il faudra sécuriser dans les prochains mois. Je pense qu'il va falloir aussi passer un cran supérieur dans la répression.
Dans la punition de ces actes.
Il y a quelque chose quand même qui interpelle, c'est que alors c'est très bien qu'il y ait l'augmentation des moyens de sécurité déployés devant les synagogues, les écoles juives, mais dans le même temps, vous avez des responsables politiques qui peuvent tenir des discours antisémites, ouvertement antisémites.
On va en parler.
Et ça gêne personne.
On vit dans une
société complètement schizophrénique.
Ça nous gêne, nous.
Et en fait, il y a deux sociétés. Il n'y a pas une société. Il y a deux sociétés. Donc d'un côté, l'État essaye d'assurer la sécurité. Et de l'autre côté, au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté de blasphème, de tout ce que vous voulez, eh bien en fait, le discours qui promeut l'antisémitisme et donc le passage à l'acte, à la violence, voire à l'assassinat, voire à l'attentat, lui, en tout cas, il est presque sanctuarisé dans le pays. Et il y a un moment où il va falloir restreindre un certain nombre de libertés ou expliquer.
Ah, mais là, vous allez trouver que les grands défenseurs de la liberté contre
vous. Il y a un moment, on voit bien qu'on est à un carrefour.
On est à un point de bascule, c'est sûr. Ouais.
Et donc, il faudra montrer, en France, on est ça, on n'est pas ça. En France, on défend ces valeurs-là et on combat d'autres valeurs qui sont peut-être respectables dans d'autres pays, mais pas dans le nôtre. Et donc, on est au cœur de l'enjeu de civilisation. Et je sais qu'il y a quelques années, c'était des propos qui avaient fait polémique, mais je ne pense que toutes les civilisations ne se valent pas, et la nôtre est à une vraie dimension supérieure. Et donc, il va falloir.
C'est-à-dire supérieure moralement ?
Bien sûr, et que nous, on débat. Regardez, on est le pays qui défend tous les opprimés. On accorde l'asile inconditionnel. Aujourd'hui, vous avez n'importe quel juif qui est menacé dans le monde, il peut frapper à la porte de la France. On assure sa protection. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui font ça. Et donc, en fait, je crois réellement que la France a une mission.
C'est un vrai débat.
Réellement de protection et d'universalisme. Et il va falloir le rappeler, mais pas uniquement avec le côté bonbon, sympa, et on est accueillant, bisounours. Il y a aussi le volet autorité qui n'est pas de l'autoritarisme, c'est le volet de la fermeté. Et pour pouvoir préserver notre bienveillance,
notre modèle,
notre protection, eh bien, il va falloir être beaucoup plus ferme contre ceux qui veulent nous entraver et
Rachel,
nous faire reculer.
Pour en revenir à ce qu'on a vu dans le reportage, être juif aujourd'hui, c'est regarder en permanence autour de soi dans la rue quand on sort.
Oui. C'est regarder autour de soi, c'est regarder derrière soi à chaque pas. Après, il y a cette mise en abîme de ce moment de Pessah et ce qu'est la fête de Pâques en fait, pour les Juifs. En gros, pour résumer, c'est le droit de vivre libre. La sortie d'Égypte, on s'affranchit de l'esclavage et c'est le droit pour le peuple juif de vivre libre. Et en fait, finalement, ce qui est mis en place, ça démontre à quel point aujourd'hui on vit dans un judaïsme clandestin où on enlève les noms des boîtes aux lettres, on retire tout ce qui peut appartenir à la religion. Et puis effectivement, il y a ce que disait Louis, ces incitations à la haine, cette intimidation, et puis revenir en fait à ce que nos grands-parents avaient pu vivre. Enfin, c'est très douloureux, par exemple, de remettre sur sa boîte aux lettres ou sur une application de taxi le nom que ma mère avait en tant qu'enfant caché, par exemple. C'est-à-dire, c'est horrible de revenir à ça et de faire... ça montre à quel point notre République a été fragilisée par l'ensemble de ces dogmes qui nous ont désarmés, en réalité. Et effectivement, stop au caramel, bonbons et chocolat. D'ailleurs, encore debout, dans mon bouquin, c'est exactement ça.
Ouais.
Toute cette logorée, nous ne céderons pas, nous sommes à la tâche, etc. Maintenant, c'est stop. Voilà, on est agissons. Trop nombreux, agissons. Non seulement les gouvernements, les institutions, mais il faut que chaque citoyen puisse agir. Et lorsque l'on défend la République et la laïcité, non, ce n'est pas islamophobe, c'est notre République.
Léa Landman, je voulais réagir.
Oui, d'abord, encore une fois, ça n'a pas commencé le 7 octobre. Il y a moins d'un an, ou un peu plus d'un an à peu près, en bas de chez mes parents, quelqu'un a tagué sur l'immeuble une croix gammée. D'accord ? Mes parents n'étaient pas plus perturbés que ça, peut-être parce qu'ils ont l'habitude, peut-être qu'ils n'ont pas peur. Moi, j'étais très, très perturbée par cette histoire quand même. Une croix gammée en arrivant à la maison, c'est chaud. Mais là où c'est vrai, c'est au niveau de l'État, on fait ce qu'on peut. On va reparler après de la LFI et de tous ces agents qui incitent à la haine et qui sont vraiment en fonction de cet antisémitisme. Mais c'est la société civile. En fait, je pense que vraiment le vrai problème, c'est la société civile, c'est les facs, c'est des véhicules.
C'est à la fois le problème et la solution.
Oui, exactement, mais c'est complètement décomplexé. Mais c'est complètement décomplexé. L'université, parce que ce n'est pas le seul endroit de formation de l'esprit. Vraiment, je parle de la société civile, à la base, les organisations, les quartiers, les associations, etc.
Attendez, laissez-la terminer. Laissez-la terminer.
Les associations, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir en France un seul imam, qui sortent officiellement...
Oui. Oui, bon. Il y en a deux.
D'accord, deux.
Même Pierre Goumi est un gros, voilà.
Deux, pardon.
Deux.
Mais qui soient aussi vocales contre l'antisémitisme. Mais ce n'est pas seulement les imams, en fait. C'est pas seulement ça. C'est les écoles où tout d'un coup, on voit des petits groupes néo-nazis et on dit, bon, c'est pas grave, c'est des enfants. Ou d'autres écoles publiques où tout d'un coup, on a des enfants qui disent « Non, mais l'islam, c'est la religion la plus... la meilleure religion » et qui font le bras lourd. Attends. C'est-à-dire que c'est vraiment à tous les niveaux et pas seulement au niveau politique.
Bien sûr. Alexandre, rapidement, puis après on passe à
Je comprends ce que veut dire Léa, mais je ne mettrai pas toute la société là-dedans. Ce sont des minorités actives, des associations, des gens qui ont une parole publique souvent. Et donc moi je crois que la société elle fait un certain nombre de diagnostics depuis longtemps et qu'elle n'est pas toujours entendue par les politiques, justement au nom du politiquement correct dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, moi je n'irai pas jusqu'à la privation de la liberté d'expression parce que je pense que ça pourrait se retourner contre ceux justement qui veulent dénoncer l'islamisme. Du moment qu'il n'y a pas d'appel à la haine, je suis pour qu'on maintienne la liberté d'expression. Par contre, là où je suis d'accord avec Louis Dragnel, c'est qu'effectivement, on est dans une forme de schizophrénie sans parler de la liberté d'expression. On est obligé de mettre des militaires à l'entrée des synagogues et on laisse rentrer dans notre pays à peu près tout le monde et n'importe qui. Les fichiers S, on ne les expulse pas, quand bien même, pour le coup, ils auraient des paroles d'incitation au terrorisme. Donc c'est là qu'est la sujet schizophrénie. On se demande, à un moment donné, au nom d'une vision totalement naïve de la liberté individuelle, où chacun la liberté de circuler, par exemple, on va priver les honnêtes citoyens de liberté élémentaire. On parle... l'exemple le plus dramatique, effectivement, ce sont les militaires devant les synagogues, mais c'est aussi, on va, pendant les Jeux Olympiques, on va rétablir le QR code. On est quand même dans un degré de
juste pour le centre
oui,
de Paris.
On peut se demander si c'est pas un précédent. On est dans des sociétés qui deviennent tellement violentes qu'on va mettre des portiques et ce sera peut-être nécessaire demain
devant les écoles.
Peut-être qu'il serait mieux d'avoir des frontières à un moment donné que de mettre des portiques devant les écoles.
On va avancer, on y reviendra dans un instant, mais j'aimerais qu'on parle de la France insoumise parce qu'il y a une grosse polémique autour d'une conférence qui aura lieu à Lille. Avec Mme Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon, avec d'ailleurs un logo, je ne sais pas si on a l'affiche, si Samuel peut me montrer l'affiche, qui montre Israël complètement... alors là, il n'y a pas le logo... Ah si, on le voit juste en bas. Voilà. Complètement rouge, donc ça veut dire complètement palestinien. Cette conférence provoque beaucoup de polémiques. On va juste écouter Violette Spielboot, députée Renaissance du Nord, qui dénonce l'entrisme de LFI dans les universités.
J'ai un président d'université qui est courageux, avec qui il y a un vrai dialogue, qui défend l'université, mais qui est aussi soumis à ce qui se passe dans la société tout entière, c'est-à-dire un entrisme de la France insoumise avec des pressions, de l'agression, des menaces, y compris sur des étudiants d'autres bords politiques qui voudraient, eux, organiser des conférences et qui n'osent pas le faire, qui n'osent plus le faire dans nos universités. Et puis, quant au préfet du Nord, bien sûr, j'ai eu un échange avec lui. Lui, il n'agira que s'il y a un risque de trouble à l'ordre public.
Sabrina Medjemer, on est vraiment face à de l'entrisme pur et dur, ce que vous dénoncez régulièrement sur notre plateau.
Tout à fait, un entrisme qui se ramifie dans toutes les institutions. Vous aviez très bien dit tout à l'heure, madame, qu'il s'infiltre dans la société civile, mais également, malheureusement, à travers des institutions, qu'elles soient politiques, médiatiques ou universitaires. Ce n'est pas la première fois qu'LFI, encore une fois, fait œuvre de son antisémitisme assumé, décomplexé. Là, ça va plus loin que tout, je trouve, parce que ce petit logo que l'on voit en bas à droite, il veut clairement dire qu'Israël n'existe pas et qu'Israël n'a pas vocation, encore une fois, à exister. C'est une volonté d'éradiquer l'État hébreu et donc les Israéliens et donc, par voie de conséquence, les personnalités de confession juive sur l'ensemble de la planète, puisque ce n'est pas malheureusement un problème franco-français, hein, ça touche tout l'Occident, c'est d'ailleurs ce qu'a révélé le 7 octobre, c'est-à-dire cette scission anthropologique claire entre le monde arabo-musulman et malheureusement l'Occident, et on voit très bien que le Hamas a gagné cette guerre communicationnelle parce qu'il a ravivé un sentiment très très fort, un sentiment identitaire très très fort d'appartenance à l'islamisme, et c'est sur cette vague-là que joue LFI, parce qu'il joue en réalité, c'est du cynisme, c'est du calcul politicien stricto sensu, et il s'invite à opérer des conférences sur la Palestine, mais on sait très bien, je suis désolée Louis, que ce ne sont pas des lieux d'échange, ce ne sont pas des lieux où la liberté d'expression est sacralisée. À Montpellier, on a entendu récemment, là on voit les images,
Israël assassin.
Donc pardon, ça n'est pas encore une fois une volonté de débattre sur la situation géopolitique dans le conflit israélo-palestinien.
Oui, parce qu'en fait, on a dépassé les opinions. C'est plus une question d'opinion. Et c'est pour ça que cette histoire de frontières, elle est pas, c'est pas tout le problème, les frontières. Parce que les idées, elles dépassent les frontières. Et là, on est vraiment dans un cas... Et j'ai entendu après comment on parlait de la LFI, comment la LFI a parlé de cette conférence. Non, ça veut pas exactement dire ça. C'est parce qu'on veut dire, on veut défendre la Palestine. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Israël... Hier, on m'a reproché de ne pas parler de l'Ukraine, mais je vais parler d'Israël, parce qu'on n'a pas d'appel politique en France, jamais, pour en fait, l'éradication d'un pays. Mm-hmm. Ça n'existe pas. Oui. Les plus grands génocides de l'histoire, il n'y a jamais eu un parti politique en France qui dise « Ah non, mais à cause de cette politique, ce pays n'a pas le droit d'exister ». Et c'est ce qui se passe. Et en fait, c'est contaminant. Ça contamine les esprits, c'est une grande, grande confusion d'esprit, ce n'est pas une question d'opinion.
Et ça trouve un électorat.
Parce qu'ils ont fait, alors, là, exactement. Ça
absolument.
Trouve un écho dans
on va continuer à en débattre dans un instant. Rachel, je vous passerai la parole. Avant la pause, j'aimerais juste rendre hommage à Gilles Taïeb, qui est décédé cette nuit, qui était le vice-président du CRIF. On va voir son visage s'afficher à l'écran. Voilà, il est venu souvent sur le plateau de Punchline. Il s'est battu avec beaucoup de courage contre la maladie. Et on porte à sa femme Karen et à leurs enfants. C'était vraiment quelqu'un de formidable, qui avait la lutte contre l'antisémitisme, évidemment, chevillée au corps. Et il a été un de nos invités... qu'on aimait beaucoup recevoir ici dans Punchline.
Oui, je voudrais lui rendre hommage parce que cette personne m'a beaucoup soutenue.
C'est
après
vrai
le pogrom, absolument.
Bon, écoutez,
pareil.
Merci.
Toujours présent. Un grand manque.
Oui, un grand manque. Voilà, petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline, c'est News Europe 1. On va parler de la riposte d'Israël après l'attaque de l'Iran. Et puis on évoquera aussi ce refus d'obtempérer dont je vous parlais aussi au début de l'émission. À tout de suite. 17h30 de retour dans Punchline avec Simon Guillain pour le rappel des titres de l'actualité. Simon.
La flamme olympique entame son périple vers Paris. Elle a été allumée ce matin à Olympia en Grèce. La nageuse française Laure Manoudou a été la troisième relayeuse à brandir la torche. Et dans son discours, Tony Estanguet a qualifié d'honneur le fait qu'elle soit la première éclaireuse française de ce relais. Un an après le lancement de l'opération Wambushu, une opération PlaceNet a été lancée ce matin sur l'île de Mayotte. L'objectif est bien sûr de lutter contre l'insécurité et l'immigration sur place. 1700 gendarmes et policiers sont mobilisés pour une période de 11 semaines. Et puis le collège musulman Avicenne de Nice reconnaît des erreurs dans sa comptabilité mais dénonce un acharnement. Une audience s'est tenue aujourd'hui devant le tribunal administratif en présence d'élèves et de parents d'élèves. Le 14 mars dernier, le préfet des Alpes-Maritimes avait ordonné la fermeture de ce collège en dénonçant des financements opaques et des irrégularités financières manifestes, Laurence.
Ou Simon Guillain, Rachel Kahn, vous vouliez me parler de la flamme olympique et de leur Manoudou, c'est vrai?
Non, ah oui, oui, c'est
vrai. Je n'invente pas. Vous voulez dire que c'était un joli symbole, ça aussi?
Et c'est une
grande sportive.
Notre plus grande. C'est une femme remarquable. En tout cas, j'ai beaucoup d'admiration personnellement pour elle. Et puis, qui a su rester digne aussi, malgré certaines attaques. Je trouve que c'est un moment dont on a besoin. Et pour ce jour, c'est. C'est notre femme olympique, voilà aussi. Bon,
très bien, avec un joli parcours sécuritaire pour cette femme qui va parcourir la France.
Par la mer,
après, quand elle sera sur le territoire français jusqu'au 26 juillet.
Ça nécessite aussi une sécurisation.
C'est ce que je vous dis, maritime. Sécuritaire. Maritime aussi.
Bien sûr, parce qu'à bord du Belém, vous croyez que.
Non, mais dans ce moment.
Le Belém va se promener tout seul dans la Méditerranée.
Dans ce moment où on est complètement à contrario de tous les fondamentaux olympiques. De la paix, de la fraternité, justement où l'ennemi, en fait, c'est soi-même et c'est pas ses adversaires, où il y a un respect mutuel, ça fait du bien, bien sûr. Malgré tout.
Et là, elle passait le relais à qui? J'ai pas vu l'image.
J'ai pas fait attention non plus, ma chère.
Si Samuel peut me dire, parce que c'est un fan de sport. Bon, on verra. En tout cas, voilà pour la flamme olympique. Je voulais vous faire un petit clin d'œil, un peu cueilli par surprise, mais voilà, c'était le petit clin d'œil. Alors Manoudou, on va évoquer Israël, évidemment, et la riposte à l'attaque iranienne. Elle aura lieu. C'est ce qu'a dit hier le chef d'état-major de Tsahal. On va l'écouter. Dans le sud d'Israël, devant ses soldats, il promet une riposte face à l'attaque sans précédent de l'Iran.
Nous regardons vers l'avenir. Nous envisageons nos prochaines actions. Et ce lancement de tant de missiles de croisière et de drones dans le territoire de l'État d'Israël sera accueilli par une riposte. L'Iran voulait nuire aux capacités stratégiques de l'État d'Israël, ce qui n'est pas arrivé dans le passé. Nous nous sommes préparés dans l'opération Bouclier de fer. Et cette préparation a amené l'Iran à rencontrer la supériorité aérienne que vous avez très bien montrée.
Voilà pour le chef d'état-major de Tsahal. J'aimerais juste qu'on écoute Georges Bensoussan, historien, qui était ce matin très clair au micro de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1. La menace génocidaire qui pèse sur Israël n'est pas un fantasme, mais bien une réalité. Écoutons-le.
On est ici en présence d'un acte de guerre extrêmement grave, sur le fond. Donc la menace génocidaire, c'est pas un fantasme d'Israélien ou un fantasme de juif obsédé par la Shoah, c'est une réalité qui est dite clairement par les tenants du régime iranien, dont je rappelle que c'est un régime où le négationnisme est une idéologie d'État, où l'antisémitisme aussi. Je rappelle aussi qu'en matière de terrorisme, ils ont fait exploser l'ambassade d'Israël en Argentine en 92 et le centre culturel juif à Buenos Aires en 94.
C'est pour ça, Léa Landman, qu'il ne peut pas ne pas y avoir de réponse d'Israël.
Il y aura une réponse d'Israël. Je vais faire ça en trois points hyper rapides. Pour l'instant, on sait que la réponse sera, un, peut-être pas coordonnée, mais en tout cas, les Israéliens ne vont pas surprendre cette fois-ci les Américains. La réponse sera une réponse d'équilibriste dans le sens où il faut qu'elle fasse mal aux Iraniens pour essayer de retrouver un peu la dissuasion qu'Israël a perdue, mais qu'elle n'enclenche pas une guerre que personne ne veut en... pour l'instant. De toute façon, il y a encore la guerre à Gaza qu'il faut encore, et des otages dont il faut s'occuper. Ce sera une attaque directe, une cyberattaque ou l'élimination du leadership. Ça tourne autour de ces trois grosses sortes d'attaques, peut-être une combinaison des trois, mais ce sera autour de ça. Deuxièmement, on parle tout le temps d'Israël fort, etc. Mais c'est dangereux un pays faible dans le Moyen-Orient. C'est hyper dangereux en fait. On a vu ce qui se passait quand Israël était faible et quand le Hamas pense qu'Israël est faible ou que l'Iran pense qu'Israël est affaibli. C'est-à-dire que les fantasmes internationaux sur ne pas réagir ou c'est de la faute d'Israël ou il faut affaiblir Israël, c'est un délire total. C'est ça qui provoque les guerres. On le voit bien, d'ailleurs, c'est un fait. Et le troisième point, c'est quand toute la communauté internationale a demandé à Israël de ne pas intervenir ou de ne pas riposter.
Pas d'escalade.
Pas d'escalade.
Le grand mantra, pas d'escalade.
C'est un vrai débat aussi, hein, c'est pas d'escalade, parce que c'est une question de priorité. Est-ce qu'on veut ouvrir un front en Israël avec le Nord? Est-ce que c'est le temps du Hezbollah maintenant? Est-ce qu'il ne faut pas quand même concentrer tous les efforts sur le Hamas? Mais il n'empêche que dans cette communauté internationale qui disait pas d'escalade, là, on commence à parler un peu, les Américains, ils vont probablement augmenter leurs sanctions sur l'Iran. Les Européens y pensent. Mais en fait, la seule réponse internationale qui aurait dû être, c'est pas d'escalade, mais voilà notre plan diplomatique pour faire pression sur l'Iran. Et là, ça aurait été une réponse qu'Israël aurait pu peut-être éventuellement accepter. Mais s'il n'y a pas de pression, alors on continue.
Il y a eu vaguement une réponse de la France. Le président Macron a dit qu'il voulait durcir les sanctions, encore plus isoler l'Iran.
Bien sûr.
Tout a déjà été fait.
Mais ça fait 30 ans que ça dure. Et le résultat est que l'Iran s'est senti suffisamment fort. Pour attaquer.
Entièrement d'accord. Quand on entend Alexandre Devecchio, M. Bensoussan, dire la menace génocidaire qui pèse sur Israël, c'est pas un fantasme, c'est une réalité. Il a raison à 200% en réalité.
Oui, on oublie toujours, d'ailleurs, on a l'impression qu'on est dans un conflit territorial entre Gaza et Israël, alors qu'on oublie la géopolitique, le fait qu'Israël est entouré d'ennemis, que c'est un tout petit juif face à des pays arabes avec lesquels il y a parfois eu des accords de paix de trouver, mais en fait une très grande hostilité. Donc effectivement, Georges Bensoussan a raison, il faut toujours lire Georges Bensoussan, il sort là une note très intéressante pour la Fondapol, où il rappelle aussi, et ça nous éclaire sur ce qui s'est passé le 7 octobre, que les pogroms de juifs dans cette région du monde avaient commencé bien avant même la création de l'État d'Israël. Donc ce qui se joue, l'idéologie du Hamas, c'est pas une idéologie nationaliste pour le droit de la Palestine à exister et pour deux États. C'est une idéologie antisémite de gens qui sont même pas des nationalistes, qui veulent tout simplement éradiquer les juifs, finalement, du monde arabo-musulman, et pas que les juifs. Les chrétiens ne sont pas mieux traités. Toutes les minorités sont massacrées. Donc il faut toujours le répéter et pas laisser gagner la lecture manichéenne des faits qu'on voit malheureusement trop souvent dans les médias. Et ce qui était choquant après l'attaque de l'Iran, bon, qu'il n'y ait pas d'escalade, c'est quelque chose que je peux entendre. Mais par contre, certains ont quasiment repris à leur compte le discours du régime iranien en disant que c'était une riposte.
Laissez notre patrie
une riposte légitime parce que la souveraineté de l'Iran avait été violée par... On a totalement fait fi du 7 octobre où l'Iran est tout de même impliqué. Et puis, ce sont souvent ceux qui ont fait ça. Ce sont parfois des féministes. Enfin, le régime iranien, il faut bien voir qu'il est honni par son propre peuple. Et d'ailleurs, on oublie bien vite
les femmes iraniennes
en révolte, et notamment les femmes iraniennes.
On ne les oublie pas. Il y avait Mona Jafarian hier sur le plateau qui était fort courageuse. Rapidement, Sabrina.
Oui, le peuple iranien qui est en lutte contre ce régime.
Le peuple iranien ?
Le peuple iranien,
le peuple, pardon, excusez-moi.
Qui est en lutte contre le régime des gardiens de la révolution, est en totale solidarité avec le peuple israélien. Et ça, c'est une très bonne chose.
Oui, 70%, comme nous disait hier Mona Jafarian, les Iraniens sont plutôt en faveur d'Israël. Louis, peut-être un mot là-dessus, et Rachel ?
Non, allez-y, Rachel.
Rachel.
Alors, sur la réponse, je trouve, et le mantra pas d'escalade. C'est assez insupportable, hein, parce qu'effectivement, Israël ne cesse d'être attaqué, avec effectivement ces otages, et on n'applique même plus le droit international. C'est-à-dire que le droit international est sorti pour pour des choses en fait qui ne sont pas dans le réel. Mais en revanche, on sait qu'en droit international, lorsqu'il y a une attaque de ce type, l'État a justement le droit de rétorquer. Et puis par ailleurs, on est en retard, et je ne cesse de le répéter, de 50 ans sur le droit international du terrorisme. À partir du moment où on n'a pas de droit international du terrorisme, où ces groupes terroristes sont actés au niveau national par des assemblées, mais qu'il n'y a pas en fait concrètement ni de convention internationale, ni une définition internationale du terrorisme, ni des juridictions, eh bien, il n'y a aucun rendu sur cette situation. Et ce qui permet ensuite à la propagande d'être nourrie et de raconter tout et n'importe quoi. Et
Léa, en plus, quand on nous dit, Léa Landman, c'est une attaque à minima en Iran, excusez-moi, 300 missiles et drones lancés sur Israël, dont certains ont réussi à passer le dôme de fer, excusez-moi, ce n'est pas une petite attaque du tout. Non. Enfin, il faut arrêter avec ça.
C'est pas du tout une petite attaque. Et en fait, la grande question qui se pose partout, c'est est-ce que la réponse doit être en fonction des intentions ou en fonction du résultat ? Là, les Israéliens ont décidé que ce serait ni l'un ni l'autre. Ils peuvent se permettre une réponse relativement faible et contenue parce qu'effectivement, le résultat... Là, on a entendu que la petite fille qui a été blessée a été vraiment grièvement blessée. Plus que
une petite fille qui était dans sa maison contre un débris de missile est tombé dessus.
Exactement. Mais pour une attaque aussi massive, le résultat peut permettre aux Israéliens de pas non plus y aller à fond.
Mais comme vous le disiez, le symbole du dôme de fer...
Mais c'est 300 missiles.
Oui, c'est énorme.
C'est un territoire iranien. C'est-à-dire, c'est une attaque militaire. S'il n'y avait pas eu la guerre à Gaza, d'ailleurs, si on n'était pas dans un contexte du 7 octobre, la réponse, elle ne serait pas du tout pareille. Mais je voudrais juste rajouter, vous m'avez fait penser, quand il y a eu des manifestations, que vous parliez d'instrumentalisation, etc., quand il y a eu des manifestations des Gazaouis contre le Hamas, ça n'a presque pas été couvert à l'international. Tout le monde s'en fichait. En août dernier, mais aussi avant. Tout le monde s'en fichait. Donc évidemment qu'il y a une vraie instrumentalisation. Et je pense que c'est une des choses qu'on voit aujourd'hui. C'est vraiment un résultat direct de ce cynisme, en fait.
Bien sûr. Un dernier mot là-dessus, Sabrina, après en avance. Vous voulez rajouter un dernier mot?
Oui, alors l'Iran, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. Ils ont des proxys, c'est quand même le Hezbollah, c'est quand même 30% du financement du Hamas. C'est quand même des accords en 88 qui ont été conclus avec Moussa Abou Marzouk, précisément pour... constituer et le financement et la charte du Hamas qui a encore une fois des visions génocidaires, eschatologiques du peuple israélien et de l'État hébreu. Donc évidemment que Israël est là où je peux me permettre d'apporter une petite note positive, c'est que la guerre fratricide entre chiites et sunnites s'est dévoilée à travers peut-être pas le soutien officiel de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie et des Émirats Arabes Unis qui étaient en voie de normalisation de leurs relations avec Israël à travers les accords d'Abraham. Il se peut peut-être que cette coalition qui ne dit pas son nom entre le monde arabo-musulman sunnite et Israël uni contre les attaques de l'État iranien peut peut-être ouvrir une brèche positive dans l'escalade ou pas. D'ailleurs, je ne pourrais pas vous le dire. Mais...
Un dernier mot, Léa, là-dessus.
Oui, clairement, l'accord le plus important qu'il y a eu dans la région depuis peut-être...
Le début.
Ouais, depuis le début. Non, peut-être la Jordanie et l'Égypte, mais en tant qu'alliance. Et puis, ça fait quand même 2 ans qu'en parallèle des accords d'Abraham, il y a un vrai travail. Ça s'appelle MEAT, c'est Middle East Air Defense. C'est-à-dire un système... officiel et pas officiel, de connecter en fait les systèmes de défense et de certains pays autour du Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite a dit qu'ils n'avaient pas participé, les Émirats Arabes Unis non plus, mais ils ont donné les renseignements. On n'a jamais vu ça. En 91, on a demandé aux Israéliens de s'asseoir tranquillement. C'est la coalition internationale qui allait riposter contre Saddam Hussein. Là, Israël au centre d'une coalition avec des pays arabes. Je le répète souvent parce que j'ai vraiment l'impression d'être dans un film de science-fiction. Israël qui se bat... en fait, quelque part, aux côtés des Saoudiens et des pays arabes, des Jordaniens, etc. Mais il ne faut pas sous-estimer, encore une fois, l'histoire palestinienne. C'est fini. Les accords d'Abraham, c'était une petite note. Ça va être au centre de tout maintenant.
Bien sûr. J'aimerais qu'on avance et qu'on évoque ce nouveau refus d'obtempérer hier dans la banlieue de Strasbourg avec un mineur de 17 ans qui faisait du rodéo sur une motocross en plein jour à la sortie d'une école. Et qu'on évoque aussi le courage de ce policier municipal qui a tenté de l'intercepter, qui a réussi. Récit de Noémie Hardy.
alors qu'un policier municipal tentait de mettre fin à un rodéo sauvage juste devant une école de la banlieue strasbourgeoise. Il est percuté par un délinquant et projeté au sol. Le choc est d'une rare violence, comme l'explique Sylvain André, syndicat Alliance Police Nationale.
Donc il lui a fait plusieurs injonctions pour lui demander de stopper son engin. Et ce dernier a délibérément foncé sur notre collègue de la police municipale, le renversant. Et à l'issue de ça, il a pris la fuite et a été interpellé quelques instants après. Notre collègue de la police municipale transporté à l'hôpital.
Malgré la douleur, le fonctionnaire se relève et poursuit le délinquant de la route, âgé seulement de 17 ans. Ce dernier était au guidon d'une moto non homologuée. Des faits récurrents à Strasbourg et dans ses environs, selon le syndicat Alliance.
On a des vidéos choquantes, hein, où on a même parfois des déambulations de hordes de motos qui circulent dans certains quartiers avec justement ces motos non homologuées. Ça fait effectivement un trouble à l'ordre public assez important.
Le policier percuté a été transporté à l'hôpital et souffre d'une suspicion de fracture au poignet et de multiples contusions.
Là encore, on peut souligner son courage, ouais. Alexandre Oulouy. Enfin, franchement, c'est bravo de se relever, de prendre le choc du scooter et après de se relever pour courir après le délinquant.
Je crois qu'il y a un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes.
Un peu 20 minutes, je crois.
Ouais. Ou toutes les 20 minutes. Et ça, ces images aussi sont un cinglant démenti à ceux qui expliquent que les policiers seraient violents, tuent. En fait, toutes les 20 minutes, il y a ce genre de cas qui mettent en danger la vie des policiers et il y a très très peu de cas qui dérapent. En réalité, c'est les policiers qui risquent leur vie dans ces cas-là et c'est pas la personne qu'on interpelle parce qu'elle n'a pas respecté la loi. Donc c'est bon de...
C'est les héros et les zéros, c'est ce que je disais. Le zéro, c'est le gars à moto et le héros, c'est le policier municipal.
Toujours les mêmes profils, mineurs, moto volée, plus aucun, je dirais, filtre. Si vous voulez, parce que...
Non, mais il n'y a aucun respect de l'autorité, c'est...
On prend le risque de tuer quelqu'un pour un refus.
Pour épater la galerie. Louis ?
Là, le motard, normalement, il doit être inculpé pour homicide volontaire contre une personne dépositaire de l'autorité publique.
Tentative, peut-être, d'homicide.
D'homicide volontaire, absolument. Donc c'est quand même une qualification extrêmement grave. Je serais quand même très curieux de savoir si...
In fine, qu'est-ce qui se passe ?
Va aller en prison, et si cette personne va en prison... Combien de temps elle y séjourne et je pense que
17 ans, il a.
Typiquement dans ce type d'affaires,
les mineurs déjà.
Il n'y a qu'une seule chose qui compte et qui fonctionne, c'est la sanction. Il faut que la sanction soit rapide et puis que la sanction soit soit une vraie sanction. C'est-à-dire que si cette personne est condamnée à 6 mois de prison ferme, ça se trouve elle aura moins. Hein. Quel est le sens de la peine ?
Surtout qu'elle l'exécutera pas. A priori, 6 mois de prison ferme, on va rarement en prison.
Ah bah en dessous d'un an, on n'y va pas.
Et le refus dans 3 semaines, on la retrouve sur une autre moto volée, si elle lui est confisquée. Et ça commence.
Ce qui est consternant, et c'est pour ça qu'on est tous un peu dépités, c'est qu'en fait, il y en a toutes les semaines des histoires comme celle-là.
Oui.
Et donc, ce qui est terrible, c'est qu'il y a une forme de banalisation, même si nous, on ne s'habitue pas. Mais,
il ne faut pas s'habituer, oui.
Et on se dit, les semaines passent. Parfois, il y a un policier...
Les policiers risquent leur vie.
Qui est entre la vie et la mort. On espère qu'il aille mieux dans 3-4 mois. Et puis, la personne ne sait pas très bien ce qu'elle devient. Et je trouve que c'est un symptôme de glissement de notre société, d'accoutumance à...
Et quelle est la réponse pénale ? Quelle est la réponse vraiment ?
Ah bah, beaucoup de choses. Hein.
Rachel et ensuite Sabrina.
En plus, ça se passe à côté d'une école, si j'ai bien compris.
Ah oui, c'est sorti de l'école.
Le problème, en plus, cette vidéo, elle devient virale dans certains réseaux. Et vous parliez tout à l'heure des héros et des zéros. Mais le problème, c'est qu'il y a toute une partie de la jeunesse qui prennent pas le héros pour le zéro est à rebours.
Et le héros, en fait,
exactement.
Ouais,
donc cette banalisation, en tout cas, c'est plus que la banalisation, c'est que certains prennent ce monsieur à moto qui a produit un refus d'obtempérer pour un modèle et qui ont envie en fait de reproduire exactement la même chose. Donc évidemment, s'il n'y a pas de pénalité derrière, eh bien,
en tout cas de sanction pénale. Ouais. Voilà. Sabrina,
il y en aura, mais ce sera un stage de citoyenneté. Ou des travaux d'intérêt général. Vous vous souvenez de l'histoire du policier qui a été tiré sur 20 mètres en sortant de son véhicule par un jeune délinquant. Vous vous souvenez, il a eu 35 heures d'intérêt. Non, mais de travaux.
Non, mais c'est grotesque. Donc, c'est grotesque.
Il a raison de parler de. Bah oui, quid de l'exemplarité, mais quand on a une peine comme ça, c'est très incitatif, aurait été pour recommencer, puisque de toute façon, qu'est-ce qu'on risque ?
Mais c'est
le code de justice pénale des mineurs, tous les pédopsychiatres, tous les psychologues, tous les travailleurs sociaux vous le disent. C'est un texte délictogène et criminogène parce qu'il n'est plus du tout corrélé à la réalité de la délinquance d'aujourd'hui.
Mais on a souvent le débat avec les juges, Sabrina. Les juges ont la possibilité, entre 16 et 18 ans, de lever l'excuse de minorité. Donc en réalité, ça concerne vraiment la catégorie d'âge en dessous de 16 ans. Et là, il y a une vraie question sur le code pénal.
Mais en même temps, il y a aussi le principe de l'individualisation de la peine. Depuis la loi, la décision du Conseil constitutionnel de 2005, qui malheureusement parfois ne fait pas le travail comme il se devrait d'être.
Alors Léa, j'allais juste
rajouter que parfois je trouve que la méthode choc, elle est pas mal non plus. Donc au lieu de mettre quelqu'un 6 mois en prison, le mettre, lui faire faire, le mettre pendant 3 mois dans un hôpital de Grand Brûlé quelque chose comme ça, c'est pas plus mal non plus. Parce qu'à la fin, ils ont 17 ans, c'est des ados. Ils sont hyper maniables, ils sont hyper malléables. Donc, qu'est-ce qu'on veut leur faire faire? Est-ce qu'on veut une méthode choc? Moi, je suis pour les méthodes choc. Si cette méthode choc va les stresser ou va leur apprendre quelque chose, je suis plus, c'est plus intelligent mettre 2 mois en prison.
Moi, là où je suis pas d'accord avec vous. Et en fait, ils ont besoin de savoir où est le bien, où est le mal. Ouais. Et on n'en est pas encore à l'étape de la réalité.
Et savoir que si ça passe sur TikTok,
la méthode. Alors, j'entends ce que vous proposez, mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place que l'incarcération.
Pourquoi?
Parce qu'il va falloir des gens
rapidement, obligés. Louis.
Et je pense qu'il y a plein de
gens qui ont envie d'être.
Vous croyez qu'il y a des médecins qui ont envie d'être à côté de cette personne-là? Ça se trouve, il y a des médecins qui demanderont une protection policière pour se protéger de ces individus-là. Et je pense que l'idée sur le papier, pourquoi pas, peut être séduisante, mais la mise en application et le sens de l'idée. Pour la personne, je pense que c'est...
Alexandre, rapidement.
Aussi, on pourrait faire comme en Angleterre, neutraliser les véhicules qui refusent d'obtempérer. Mais le problème, c'est que s'il y a un accident, ça retombe sur, malheureusement, le coup de la police. Et puis ensuite, ça peut soulever des émeutes. Et puis le politique peut craindre que la France embrasse, etc. etc.
Il ne peut pas
à la montagne, à la mer, c'est l'oisiveté, donc il faut les comprendre.
J'allais abonder dans le sens de Louis en disant que les travaux d'intérêt généraux, malheureusement, sont rarement... effectués, donc je ne crois pas
sur le principe.
Mais les mairies n'ont pas les moyens de les appliquer.
Il n'y a pas les moyens de le faire, donc je ne serais pas contre. Et ensuite, vous réagissez comme quelqu'un d'humain, mais cette personne a quand même tenté de tuer un policier qui lui avait strictement rien fait, donc je suis même pas sûr qu'elle soit émue, si vous voulez, par les grands brûlés. Malheureusement, il y a des gens qui, dès 17 ans, sont perdus, ont perdu une forme d'humanité. C'est pour ça qu'il faut les prendre en charge avant et sanctionner, à mon avis, avant. Des pays comme les Pays-Bas ont réussi, avec même des courtes peines, mais dès la première infraction,
il y a une peine. Travail d'intérêt général en prison.
Aux Pays-Bas, 50% de places de prisonniers en moins entre 2008 et aujourd'hui.
Parce qu'ils font des courtes peines, 10 jours, 15 jours, mais tout de suite. Et voilà, et c'est assez dissuasif, en tout cas pour les jeunes délinquants. Merci beaucoup, Léa Landman, d'être venue dans cette première partie de Punchline. Revenez quand vous voulez. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. On se retrouve dans un instant, si vous le voulez bien, pour la deuxième partie de Punchline. On évoquera la riposte israélienne après l'attaque iranienne. Notre invité à 18h30 sera Manuel Valls, l'ancien Premier ministre. A tout de suite sur CNews et sur Europe 1.
Merci, Laurence.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Il y a des jours où l'on se dit que c'est fichu, que l'obscurantisme est en train de gagner la partie en France et que la montée des intolérances va nous rendre la vie impossible dans les années à venir, surtout avec des responsables politiques d'extrême gauche qui glorifient les revendications des terroristes du Hamas, qui soutiennent la République islamique d'Iran et qui organisent des conférences pour nier l'existence d'Israël. Mais il y a des jours aussi où l'on se dit que rien n'est perdu, que nous pouvons lutter contre cette propagande antisémite, que nous sommes capables de surmonter ces pulsions mortifères et de faire entendre notre voix, quitte à avoir des cibles collées dans le dos par ceux qui haïssent notre liberté et qui veulent changer et radicaliser notre société. Le fascisme a désormais un nouveau visage, celui de la France insoumise, comme le disait ce matin sur nos antennes l'historien Georges Bensoussan, on l'entendra. Le courage en a un autre, celui de ceux et celles qui se dresseront pour lui barrer la route. On va en débattre ce soir dans Punchline. « Il est 18h. Avant de développer ces thèmes de débat, d'abord le rappel des titres de l'actualité. À l'occasion des 80 ans de la Libération, Emmanuel Macron est en ce moment même en déplacement dans le Vercors. Le président de la République rend hommage aux combattants de ce célèbre maquis de la Résistance, l'incarnation d'une France indissociable de la République, selon les mots prononcés par le chef de l'État. Un an après le lancement de l'opération Wambushu, une opération Place Net a été lancée ce matin sur l'île de Mayotte. L'objectif est de lutter contre l'insécurité et l'immigration. 1700 gendarmes et policiers sont mobilisés pour une période de 11 semaines. Le gouvernement a notamment pour ambition d'arrêter 60 individus particulièrement recherchés. Le GIGN célèbre aujourd'hui ses 50 ans. Avant 1974, la France ne disposait pas d'unité d'intervention spécialisée dans la gestion de crise et de contre-terrorisme. Chaque année, cette unité d'élite participe à une demi-douzaine d'exercices d'ampleur des héros nationaux. On est tous d'accord. Enfin, 194e jour de détention pour les otages retenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français. Ils se nomment Ofer, Orion, Orad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leurs familles. Nous demandons, une fois de plus, leur libération immédiate et sans condition. Il est 18h02 pratiquement sur Europe 1 et sur CNews en direct avec Louis de Ragnel. Bonsoir avec Bonsoir. Rachel Kahn. On Bonsoir, a le plaisir Laurence. De recevoir Amine El-Khatmi, essayiste. Bonsoir Amine.
Bonsoir Laurence.
Dans ceux que je citais il y a quelques instants qui se dresseront pour lutter contre l'obscurantisme, je vous mets évidemment beaucoup. Dans ces rangs-là. Sabrina Medjemer également. Merci Bonsoir, beaucoup d'être Laurence. Là, essayiste. Alexandre Devecchio. Journaliste. Bonsoir. On va s'intéresser, bonsoir, à la riposte israélienne après l'attaque de l'Iran. Elle n'a pas encore été lancée. On va rejoindre tout de suite à Tel Aviv notre envoyée spéciale Régine Delfour. Bonsoir Régine. Cette riposte israélienne aura lieu, c'est ce qu'a dit le chef d'état-major de Tsahal, mais on ne sait pas quand ou sous quelle forme. Quel est l'état d'esprit, quelle est l'atmosphère en ce moment dans le pays ?
Eh bien, après l'annonce de l'état du chef de l'état-major de l'armée israélienne que Israël allait répondre donc à cette riposte, les Israéliens l'ont salué. Ils sont heureux de cette riposte et vous l'avez dit, on ne sait pas encore de quelle manière ni quand. Il est peu probable que ce soit une riposte massive sur l'Iran puisque les Israéliens soutiennent le peuple iranien qui, pour eux, sont victimes de la République islamique d'Iran et donc du gouvernement des Mollahs, mais plutôt des frappes ciblées comme aujourd'hui dans le sud du Liban où Tsahal, l'armée israélienne, a annoncé l'élimination d'un commandant du Hezbollah qui avait participé notamment aux tirs de missiles sur Israël. Aujourd'hui, il y a eu aussi des frappes ciblées dans le centre de la bande de Gaza. Tsahal a annoncé avoir éliminé donc des terroristes. Alors il pourrait y avoir donc d'autres opérations ciblées, notamment en Syrie, sur des caches de munitions et d'armes, mais aussi en Iran, plutôt sur des sites militaires. Les Israéliens nous m'ont dit en fait que ne pas riposter serait un aveu de faiblesse.
Beaucoup Régine Delfour sur place en Israël. On va tout de suite écouter Daniel Agari, porte-parole de Tsahal, qui définit aussi cette riposte israélienne.
Nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à une telle agression. L'Iran ne s'en sortira pas indemne.
Amine El-Khatmi, Israël ne peut pas ne pas riposter. Toute la question est de savoir dans quelle proportion et avec quelle réponse après coup de l'Iran. Mais ça ne peut pas rester impuni ce qui s'est passé. C'est une attaque extrêmement grave de la part de l'Iran.
Oui, bien sûr. Et Israël doit riposter d'abord pour assurer la protection de sa population, la protection de ses intérêts. Mais au-delà de ça, et c'est déjà une première raison suffisante, Israël doit riposter parce qu'elle doit défendre un modèle. En réalité, c'est une guerre entre deux visions de la société. C'est pour ça que lorsque j'entends que l'on met sur le même plan Israël et l'Iran, les qualifiant tous deux de théocratie, comme l'a fait la toujours subtile Madame Soudé, députée de la France Insoumise, qui a mis sur le même plan les deux pays en disant que ce sont deux théocraties. Non, il y a d'un côté une théocratie dirigée par des islamistes qui pourchassent les femmes qui veulent disposer librement de leur corps et qui ne veulent pas se voiler, qui enferment leurs opposants politique, qui pourchasse les minorités sexuelles, et de l'autre, vous avez une démocratie qui peut être contestée, dont on peut contester la politique du gouvernement, dont on peut même qualifier le gouvernement d'extrême droite si ça nous chante de le faire, mais qui reste une démocratie. Et donc, Israël doit aussi défendre, j'entendais cette phrase qui a été répétée depuis le 7 octobre, Israël est à la pointe de l'Occident. D'une certaine manière, en se défendant, Israël doit défendre l'Occident.
Louis de Ragnel, la riposte israélienne ne fait aucun doute.
Bien sûr, non mais Amine El-Khatmi a entièrement raison. En fait, faut raisonner dans l'autre sens. Si Israël n'avait rien fait après l'attaque du 7 octobre, comme le demandait la communauté internationale, que se serait-il passé? Si Israël là aujourd'hui ne se défend pas et n'envoie pas le signal, c'est l'expression de la force. C'est pas forcément. En fait, il y a une confusion des mots. C'est pas l'expression de la violence. C'est pas Israël ne veut pas créer un bain de sang par principe. C'est simplement être respecté. Et puis, je pense qu'on parlait tout à l'heure, il y a un débat entre le camp du bien et le camp du mal. Bien, il y a un moment donné, je pense qu'il faut aussi que la communauté internationale fasse des vrais choix. On est face à un... Il n'y a pas de dilemme à avoir. Et en fait, il faut soutenir sans conteste Israël. Si demain, Israël était lâché... Ben non, mais, en fait, moi, c'est un débat que j'ai du mal à comprendre. Parce que si Israël ne se défendait pas, mais toutes les autres organisations terroristes se diraient « Mais alors, c'est bon, y aller. Oui, allons-y gaiement. » Et la communauté internationale dira toujours « Attention, pas d'escalade.
De la retenue.
Vous allez voir, les Nations Unies, comme d'habitude, vont dire...
C'est déjà fait.
Non, mais complètement contre la défense des intérêts de l'Occident. Et donc diront, attention, il ne faut surtout pas frapper, il ne faut pas riposter. Et puis la guerre, c'est sale. Évidemment que la guerre, c'est sale. Mais Israël n'a jamais demandé à être attaqué. Non, mais le 7 octobre, Israël n'a jamais provoqué l'attaque du Hamas.
Bien sûr.
Là, Israël ne fait que se défendre. Et en fait, on inverse complètement les rôles. Moi, je trouve que c'est la plus belle, entre guillemets, fake news, puisque le mot est à la mode, de l'inversion des rôles. On a l'impression qu'Israël est devenu le méchant, alors qu'en réalité, Israël est menacé de toutes parts. Par toutes les organisations terroristes islamiques et par la lâcheté des pays occidentaux. Parce qu'en fait, il faut parler de la lâcheté. On est extrêmement faible. Si ça nous arrivait à nous...
Après les 300 missiles ou drones étaient arrivés sur la France...
Si ça était arrivé à nous...
Nous serions en guerre.
Après Bataclan, les États-Unis, si d'autres des grandes puissances avaient dit « Ah mais non, les opérations au Mans, vous savez, les opérations extrajudiciaires que la France... peut commettre et commet régulièrement dans le monde pour éliminer...
C'était sous François Hollande.
Mais on aurait tous été outrés. On se serait dit, mais on a un droit légitime à se défendre.
À nous défendre.
Eh bien, le droit que nous, on s'octroie pour nous-mêmes, en tout cas, on n'est pas capable d'accorder à Israël.
Alexandre Devecchio.
Il faut être cohérent, comme le disait Louis. Ce serait un précédent. On est aussi en guerre contre Vladimir Poutine. D'une certaine manière, et quel signal on enverrait quand Vladimir Poutine a violé la souveraineté de l'Ukraine, l'Europe a réagi et a été derrière l'Ukraine, ce qui était légitime. Après, on peut s'interroger, je suis aussi contre l'escalade dans ce cas-là, mais là, on parle d'escalade avant même qu'Israël ne puisse réagir. Et ensuite, je pense que sur le plan géopolitique, dans la tête des états-majors israéliens, du Premier ministre israélien peut-être et des Israéliens eux-mêmes, il y a une question qui va se poser. Sans doute à court terme, la riposte va être une riposte pas très importante. Mais la vérité, et c'est aussi qu'ils sont entourés d'ennemis. Là, ils sont obligés de s'occuper de Gaza. C'est pour ça que la riposte ne va pas être importante. Mais il y a le Hezbollah qui les menace de l'autre côté. Et il y a surtout l'Iran qui est en passe d'avoir l'arme nucléaire. Et là, il y a la question qui se pose. Est-ce qu'il faut intervenir ou pas? Avant, c'est une question de survie. Et même, effectivement, pour l'Occident, est-ce qu'on a intérêt à ce que l'Iran ait la bombe nucléaire? Je ne suis pas sûr.
Non, c'est même certain qu'on n'a pas le droit. Je voudrais juste qu'on écoute les Israéliens. On leur a posé la question dans les rues de Tel Aviv, la façon dont ils envisagent cette riposte israélienne de leur armée. Écoutez-les.
Il ne s'agit évidemment pas, pour Israël, de toucher la population iranienne qui est sûrement... acquise largement à la cause israélienne, mais il faudra une réponse.
Concernant la riposte, ici on l'attend, très franchement, pas tant pour tuer des Iraniens. Les Israéliens ont une très bonne opinion de la population iranienne, c'est vraiment le gouvernement. Et on attend une riposte essentiellement parce que si on ne répond pas, ça met une sorte de rapport de force en faveur de l'Iran.
Écoutez, en Israël, on ne se pose pas la question si on doit ou non riposter à l'Iran. En Israël, tout le monde est d'accord dans l'unanimité qu'il faut répondre et réagir face à l'Iran. On essaye de nous demander à nous de la retenue alors que c'est le moment où il faut frapper l'Iran.
Pas de doute sur cette réponse et cette riposte israélienne, Sabrina Mejdober.
Oui, mais ce qui a été dit par Amine, Alexandre, est très juste. C'est une question de survie existentielle, évidemment. L'Iran, c'est quand même un pays qui finance le Hamas. On rappelle quand même l'article 7, l'article 35 de leur charte. Ils ont une vision de destruction, c'est une vision génocidaire. Ils veulent détruire Israël. Et puis l'Iran a quand même une particularité dans l'historicité du narratif politique. C'est-à-dire que moi, je me souviens des propos de Mahmoud Ahmadinejad en 2005, absolument, qui disait « il faut rayer Israël de la carte ». C'était ses mots. Donc effectivement, c'est là où la question du nucléaire intervient, parce que la menace est précisément là. Donc après, il y a eu des accords de Vienne, Trump s'en est retiré, etc. Donc que fait-on? Comment la communauté internationale va s'organiser avec l'AIEA pour pouvoir simplement produire du nucléaire civil et le limiter au nucléaire civil? Parce que ça, c'est quand même une question, il me semble, assez importante à traiter. Et puis après, je suis tout à fait d'accord, si Israël tombe, c'est l'Occident qui tombe. Et encore une fois, nous le voyons en France, il y a eu plus de 1000% d'augmentation des actes antisémites. On ne peut pas nier, encore une fois, cette corrélation entre ce qui s'est passé en Israël et ce qui se passe en Occident. Je passe les manifestations à Londres, je passe les manifestations aux États-Unis, les manifestations en Allemagne, etc. Aujourd'hui, les Juifs en France vivent comme des dhimmis. On est revenu dans la thèse de Bataillard. Je ne sais pas si vous connaissez cette grande essayiste qui a beaucoup écrit sur la façon dont les Juifs ont de vivre dans le monde arabo-musulman. Et aujourd'hui, dans cette république soi-disant fraternelle, les Juifs retirent leur mezouza, les Juifs ont peur de prendre des taxis, ont peur d'aller dans les restaurants, etc. C'est ça qui est grave et c'est ça que la politique doit être encore une fois ferme.
On va faire une pause et on va évoquer dans un instant ces partis politiques qui rajoutent de l'huile sur le feu, sur une situation déjà explosive. Je parle bien sûr de la France insoumise. On écoutera Georges Bensoussan et puis on évoquera ce meeting, enfin cette conférence qui doit avoir lieu à Lille avec Jean-Luc Mélenchon et une candidate européenne sur Salih Rima Hassan. À tout de suite. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer cette conférence de la France insoumise qui doit avoir lieu à l'Université de Lille ce jeudi. Une conférence qui provoque la polémique puisqu'elle a lieu au nom de l'association Libre Palestine qui prône un antisémitisme violent. Explication de Noémie Hardy, je vous passe la parole ensuite à Mélène Katmi.
Sur l'affiche, Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan prennent la pause pour cette conférence sur la Palestine qui suscite de vives contestations. Organisée ce jeudi par une association étudiante à l'Université de Lille, les deux insoumis doivent y intervenir. Mais le logo de l'association a fait naître les critiques. Selon l'historien Georges Bensoussan, il sous-entend la disparition de l'État d'Israël.
Son slogan, c'est « Palestine libre, du fleuve à la mer ». Qu'est-ce que ça veut dire, du fleuve à la mer ? C'est l'élimination de l'État d'Israël. C'est un slogan génocidaire.
Plusieurs personnalités politiques réclament l'annulation de la conférence. Le député Rassemblement national du Nord, Sébastien Chenu, dénonce la stratégie électoraliste de la France insoumise.
Un discours qui n'a qu'un but, hein, c'est faire des voix, aller mobiliser des populations qui sont sensibilisées à ce discours antisioniste, des populations qui sont sensibilisées à un islam radical, derrière lesquelles Jean-Luc Mélenchon court.
Et selon la députée Renaissance du Nord, Violette Spielboot, les insoumis ont infiltré l'université publique.
Là, ce qu'on voit, c'est Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, tous les deux en conférence. Finalement, c'est un meeting électoral déguisé au sein de notre université publique, dans des locaux universitaires, et ce n'est pas leur destination. C'est là-dessus que j'ai souhaité alerter le président de l'université en particulier.
Des responsables de la France insoumise jugent ces critiques infondées ou malveillantes et affirment que l'université a bien validé cette conférence.
Amine El-Khatmi, il y a beaucoup d'indignation autour de la tenue de cette conférence, mais aussi des propos très récurrents de la France insoumise à propos d'Israël. Mais la question est, est-ce qu'on ne leur fait pas trop de pub en réalité sur la tenue de cette conférence? Est-ce qu'il faut continuer à en parler comme cela ou pas?
Écoutez, il y a deux choses. Moi, que des gens se réunissent pour parler de la Palestine ou même pour soutenir la cause palestinienne, c'est leur droit le plus absolu. Mais qu'on le fasse en prenant comme symbole une carte qui raye Israël, précisément de la carte, puisque le slogan de la mer au Jourdain, je rappelle que le Jourdain, Madame Panot ne savait même pas le situer sur une carte, de la mer au Jourdain, ça veut dire qu'Israël n'existe plus. Ça, c'est un problème. Et puis, pardon, la deuxième chose qui est un symbole terrible, j'ai pas le sentiment que ça a été dit aujourd'hui, c'est que l'Université de Lille, en 2017, c'est précisément là où la pièce de Charb a été interdite sur pression de la Ligue des droits de l'homme et du MRAP qui ont hurlé à l'islamophobie
et le précédent président de cette université de Lille a interdit la tenue de la pièce posthume de Charles 2 ans après l'attentat en prenant le motif de la crainte de troubles à l'ordre public. Si une réunion où l'on réclame la destruction d'Israël se tient dans le lieu où les mots de Charles n'ont pas pu être proclamés, je trouverais qu'en matière de symbole, il y aurait là quelque chose d'assez révoltant.
Quelle stratégie poursuit la France insoumise? En tout cas, Georges Bensoussan, qu'on a entendu brièvement, j'aimerais qu'on l'écoute à nouveau. Il était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Il compare aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon à Jacques Doriot, le fondateur du PPF, le parti fasciste. Écoutez Georges Bensoussan.
Ce parti, LFI, c'est le parti qui me fait le plus penser au populisme de Doriot. L'authentique risque de fascisme en France, c'est Mélenchon et ses sbires.
Mélenchon, Doriot, même combat,
oui,
ça va
même
faire
combat.
Ce que vous dites.
Oui, même combat. Je suis assez historien pour le savoir, pour savoir ce qu'était le PPF à partir de 1938-1939.
Poids de M. Bensoussan sont vraiment très très forts pour moi, Louis de Ragnel.
Moi, je souscris au fond de ce que dit Georges Bensoussan. En revanche, c'est vrai que moi, les comparaisons historiques, j'ai toujours un peu de mal parce que évidemment que Jean-Luc Mélenchon est tout ce qui vient d'être dit, mais bon, je trouve que c'est toujours un peu risqué de faire ces comparaisons. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'est plus dans l'ambiguïté, même s'il se protège systématiquement derrière des artifices, derrière le droit, derrière tout ce que vient de dire Amine El Khatmi. Et puis ce que je trouve assez choquant là, particulièrement dans cette séquence, c'est que Jean-Luc Mélenchon donc va faire campagne à l'université. Moi, je pense que en fait les universités pendant les campagnes électorales ne devraient pas accueillir
de conférences
oui. politiques ou de débats, parce qu'on sait très bien que c'est pas pour la stimulation intellectuelle, c'est simplement pour faire du racolage, pour trouver des militants. Et ça sert uniquement à ça, de faire des meetings politiques dans les universités.
Rachel,
Jean-Luc Mélenchon joue un peu sur la confusion, parce que demain soir, il tient un meeting à Roubaix, donc le lendemain, il sera à Lille. Et donc, il dit aux journalistes, mais attendez, moi, j'ai le droit de tenir une réunion publique à Roubaix, qu'est-ce qui choque, qu'est-ce qui pose problème? Alors qu'en réalité, on ne parle pas du meeting politique, on parle de sa conférence à l'Université de Lille.
Monsieur Rachel.
Les mots de Bensoussan m'ont fait penser en fait, à cette intervention de Léo Ferré en 1971, où il disait qu'en fait une certaine gauche, c'était la salle d'attente du fascisme. Je trouve qu'on en est là aujourd'hui, malheureusement. Et on parle souvent d'entrisme. Déjà, il y a le symbole de l'université qui est entaché, mais pour moi, c'est plus que de l'entrisme, en fait. À partir du moment où c'est une colonisation mentale, c'est une colonisation, c'est une ingérence dans l'université. Et puis par ailleurs, on est en pleine campagne électorale sur les européennes et on oublie la construction européenne. L'Europe s'est construite après la Shoah. Donc en fait, on est complètement en décalé.
Mais l'Europe n'est pas leur sujet, Rachel.
Mais je sais bien. Mais
on ne parle jamais d'Europe.
Après, c'est Gaza. C'est de se dire qu'on a le monopole de la lutte antiraciste, que cette lutte, lutter contre l'apartheid, lutter contre les génocides, lutter contre la colonisation, c'est le cheval de Troie pour mettre à terre notre République et notre Europe.
Amine El Khatmi, cette gauche-là, ce n'est pas votre gauche. La gauche de la France insoumise, c'est peu de le dire.
Ah non, oui, c'est peu de le dire. La rupture est définitive, elle est irrévocable. Pour moi, l'après 7 octobre, mais ça avait commencé avant, mais l'après 7 octobre signe une rupture totale. Enfin, on se vote dans l'apologie du terrorisme, on explique que d'abord on qualifie pas le Hamas d'organisation de terroriste, puis après on dit que c'est une organisation de résistance. On fait des blagues sur des bébés dans le four et des femmes éventrées. Je vais pas vous refaire la longue liste des abjections et des horreurs qui ont été commises je termine là-dessus. On dit souvent c'est une stratégie qui conduira Mélenchon à l'échec. Je n'en suis pas tout à fait certain, voyez-vous. Je pense que c'est une stratégie du chaos qui lui assurera sa petite boutique, puisque je ne crois pas qu'au fond de lui-même, son ambition soit de devenir président de la République. Il a compris que ça ne se ferait pas. Mais il a besoin d'une petite épicerie avec les ingrédients. Et je pense que cette stratégie-là lui assure l'ouverture de son épicerie.
Bon, Alexandre Devecchio, vous êtes d'accord avec ça?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Il peut même être présent, être élu président de la République. J'y crois pas, mais je crois que son objectif au second tour, oui. En rassemblant finalement, malgré tout, une grande partie de la gauche, parce qu'il sera le meilleur en campagne et que la gauche n'a pas nécessairement de candidat alternatif. Il l'a fait presque une fois, hein. Il était à plus de 20%, il ne faut jamais l'oublier, à la dernière présidentielle. Et il parie aussi sur une forme de basculement démographique en France pour aller chercher des voix dans des quartiers qui seraient islamisés. Ça peut tout à fait réussir. Et l'étape d'après, c'est effectivement de ne pas prendre le pouvoir de manière démocratique, parce que quel que soit le candidat en face, il perdrait évidemment, mais de produire le chaos, en particulier s'il est face au Rassemblement National, pour dénier toute légitimité au Rassemblement National s'il était élu. Donc voilà effectivement la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, pour en revenir à la conférence, je suis toujours embêté, moi, je ne pense pas qu'il faille interdire, parce que justement je suis pour la liberté d'expression et j'ai peur que ce genre de réflexe retourne contre ceux qui justement veulent combattre l'islamisme. Mais ce qui m'inquiète en réalité, c'est qu'il va y avoir du monde à cette conférence.
Ouais. Mais bien sûr, c'est ce que je disais.
C'est là où Amine Hakami a raison, c'est qu'il recrute parmi des minorités actives, d'ailleurs qui ne sont pas que dans les cités islamisées, qui sont effectivement dans les universités woke, à Sciences Po, parfois dans un univers très bourgeois et très, très bourgeois de gauche. Et donc il va y avoir du monde. Donc c'est
on lui fait peut-être la pub, mais ça... Parce qu'on en a parlé, malheureusement. Mais on est obligé
d'en parler. Il faut aussi savoir, je pense que la meilleure des choses à faire est quand même de déconstruire tout
le
ça
discours,
et de nommer clairement l'adversaire.
Sabrina Medjeber.
Oui, par rapport à la stratégie électoraliste de Jean-Luc Mélenchon, je suis d'accord avec ce que disait Amine. Effectivement, lui est dans la surenchère parce qu'il a intérêt à maintenir ses petits intérêts de boutiquier, d'incarner une forme de leader, vous savez, de ce qu'on appelle la convergence des luttes qui se transforme en convergence des rages, pardon, sur fond d'identité émiettée, assignation identitaire, etc., etc. Mais dans un même temps, j'observe que, par exemple, l'Union des musulmans de France commence déjà à rédiger des listes dissidentes pour les prochaines échéances électorales. Donc, est-ce que le discours, finalement, ou en tout cas la substance identitaire de la France insoumise à travers la transidentité, l'écologie punitive, etc. Tous les mantras qui constituent le discours politique de Jean-Luc Mélenchon va réussir finalement à infiltrer là où il pensait faire une opéra, sur le vote communautaire des quartiers.
Ouais.
Ce qu'il y a quand même, j'entends. C'est juste pour préciser, effectivement, il a eu un grand succès. En Seine-Saint-Denis, il y a eu des bureaux de vote qui ont atteint plus de 80% de vote pour Jean-Luc
12
Mélenchon.
12 députés sur 12.
Bah, exactement.
Mais c'est vrai, c'est qu'il y a une liste qui
est suivie. Cartographie avec une abstention.
La France insoumise, c'est la liste
Attendez, pas tous en même temps. Sabrina,
la liste Tripalestine, exactement. C'est celle-ci. Absolument, la France insoumise, donc il peut y avoir aussi une dissidence qui peut déstabiliser...
Alexandre.
Durant les européennes, durant la présidentielle, ça me paraît plus compliqué, mais vous avez raison, il y a une opposition, et là je demande à réfléchir à des gens qui se prétendent progressistes, qui défendent les droits des homosexuels, des LGBT, mais les islamistes, c'est vos pires ennemis.
Bien sûr.
Si demain ils arrivent au pouvoir, vous serez les premiers à être décapités, pardonnez-moi de parler comme ça. Il y a eu un précédent, puisqu'on parlait de l'Iran tout à l'heure, c'est la révolution islamique, où il y a une alliance entre les communistes et les islamistes. On a vu comment ça a fini avec les communistes en prison et massacrés dès que les islamistes ont pris le pouvoir. Donc c'est une stratégie effectivement
il faut le dire,
très dangereuse.
Queer for
Amine
Palestine.
Exactement. Ouais.
Parce que j'en ai... qu'à la fin, ça risque de mal tourner pour eux.
Ça va mal tourner pour eux.
Au milieu de tout ce chaos et de ces inquiétudes, il y a quand même un visage qui surmonte cette actualité, celle d'un héros français qui s'est dressé en Australie face au terrorisme islamique. Il s'appelle Damien Guéraud. En tout cas, lui, il s'est interposé sur une attaque au couteau dans un centre commercial. On ne sait pas encore si cette attaque est due au terrorisme, mais il s'appelle Damien Guéraud. J'aimerais juste qu'on écoute ces quelques mots sur la façon dont il a réagi. Il s'est interposé entre l'assaillant au couteau avec un plot pour sécuriser les lieux. Il parle en anglais. Bon, c'est un Français, mais il parle en anglais parce qu'il était interrogé par la télé australienne. Écoutez-le.
J'ai essayé de l'attraper, mais il descendait des escaliers. Nous l'avions suivi depuis l'étage du dessous pour éventuellement lui lancer la borne dessus, mais ce n'était pas possible. Nous avions besoin de quelque chose pour l'attraper. On n'a pas réfléchi sur le moment. Il est impossible de penser à ces moments, c'est de l'adrénaline pure. Ses yeux étaient vides. C'est comme s'il était totalement vide de l'intérieur.
He wasn't there.
Ça fait du bien à Minel Khatmi d'avoir des figures de héros. On a tellement d'anti-héros aujourd'hui qu'avoir un Français qui se dresse contre le terrorisme...
Oui, ben on exporte nos talents, c'est bien.
Oui. Une fois qu'on peut les Australiens veulent le garder.
Ils veulent même le garder, donc on va leur demander de nous le rendre peut-être. Mais c'est vrai que c'est au-delà de l'admiration qu'on peut avoir pour le geste. Moi, j'écoutais votre première partie en venant vers vous dans la voiture et je trouvais votre discussion passionnante sur effectivement, ça nous interroge sur nos propres réactions, nos propres capacités.
Qu'est-ce qu'on ferait ?
Effectivement, cette fameuse question qu'aurions-nous fait pendant la guerre ? Alors évidemment, tout le monde se voit résistant, mais la réalité, c'est qu'on n'en sait strictement rien. C'est que face à la vérité des faits, on ne sait pas comment se comporter. Et dans une situation comme ça, bah, effectivement, on ne sait pas comment se comporter. Et ça rend d'autant plus admirable le geste de quelqu'un qui, lui, manifestement, n'a pas beaucoup hésité.
Non, Rachel Kahn, voilà, c'est important d'avoir aussi des gens qui s'opposent, des gens qui se dressent contre l'obscurantisme et la barbarie.
Absolument. Alors, j'entends hein, sur la réaction, parce qu'on ne sait pas effectivement comment on peut réagir, comment on réagirait, etc. Mais dans le même temps, je crois que le courage, ça s'éprouve, même par des petits gestes du quotidien, même par des prises de parole, n'est-ce pas, mon cher Amine oui. le courage, en fait, c'est quelque chose qui se travaille, même si on peut avoir quelque chose en soi qui nous fait réagir dans une situation donnée. Je crois que des petits gestes du quotidien, l'apprendre aussi, le transmettre à nos enfants, c'est important. Mmh. Après, dans des situations aussi de fait, on voit très bien que lorsqu'on commence à aider quelqu'un dans la rue ou à faire quelque chose, souvent, eh ben, ça se propage.
C'est contagieux, et que le courage.
Exactement.
Oui, le courage de manière
générale. Aujourd'hui, dans un espèce de contexte de pas de vague où les gens détournent le regard, etc., c'est sûr que le courage est une espèce en voie de disparition.
Bien sûr. Mais il faut célébrer tous ceux qui se dressent au quotidien. Allez, on continue ce débat juste après le rappel des titres de l'actualité. Il est pile 18h30. Simon Guilain est là.
L'armée israélienne confirme avoir tué un commandant du Hezbollah dans une frappe dans le sud du Liban. Et dans le même temps, le Hezbollah revendique le lancement de 2 drones explosifs dans le nord d'Israël. Le mouvement libanais affirme avoir frappé les rampes de lancement du dôme de fer. Depuis ce matin, une cyberattaque paralyse l'hôpital de Cannes. Toutes les opérations non urgentes ont dû être reportées. Le centre hospitalier a pris la décision d'activer une cellule de crise en lien avec l'agence régionale de santé. Tout le personnel est mobilisé sur place pour mener les investigations nécessaires. Et puis Donald Trump est arrivé aujourd'hui au tribunal de Manhattan pour le 2e jour de son procès historique. L'ancien président américain s'est plaint de ne pas pouvoir faire campagne alors que son rival Joe Biden est mis sur le terrain. C'est un procès qui n'aurait jamais dû exister, a-t-il ajouté. Donald Trump est poursuivi pour paiement dissimulé à une ancienne star du X juste avant la présidentielle de 2016.
Merci beaucoup Simon Guilain. Louis Dragnel, une information qui nous parvient concernant le 80e anniversaire du débarquement de Normandie, qui va être évidemment fêté dans notre pays. La Russie sera bien conviée à ces célébrations, mais pas Vladimir Poutine. Ça confirme une information européenne.
Absolument. C'était un peu un sujet tabou à l'Élysée. Est-ce qu'il faut inviter ou pas Vladimir Poutine pour le 80e anniversaire du débarquement? Alors, il y a les puristes, les historiens qui vous disent, bon, bah, même si Vladimir Poutine est infréquentable, fait l'objet de condamnations internationales, eh bien, il faut quand même l'inviter, quitte à se contorsionner dans tous les sens. Et il y avait même l'idée qui avait été suggérée de créer une zone internationale autour des plages du débarquement pour éviter qu'un mandat d'arrêt ne puisse être exécuté contre Vladimir Poutine. Et puis d'autres qui vous disaient, mais c'est hors de question, on enverrait le signal de soutenir Vladimir Poutine. Là, c'est la décision qui a été prise, c'est un peu du en même temps. C'est-à-dire que la Russie sera représentée,
bien sûr,
vraisemblablement,
est-ce qu'ils viendront
à travers la présence de l'ambassadeur.
D'accord.
L'ambassadeur ne viendra que si le Kremlin
l'autorise
à y aller. Je pense qu'il viendra parce que, au regard de l'histoire, c'est très important pour la Russie d'être présente, d'autant plus que la Russie porte une responsabilité historique, non pas dans le débarquement, mais
dans la bataille de Russie.
Règlement, en tout cas, de l'issue de la Seconde Guerre mondiale.
Décisif. Amine El-Khatmi, il ne fallait pas, on ne pouvait pas inviter Vladimir Poutine, malgré le sacrifice du peuple russe pendant la Seconde Guerre mondiale.
C'est des questions compliquées. En tout cas, on ne peut pas réécrire l'histoire. On ne peut pas effacer l'histoire, quelles que soient les péripéties du présent. Ce qui s'est passé il y a 80 ans maintenant, c'est bien passé. Donc On va pas. Les Russes avaient l'habitude d'effacer des gens, des photos. Voilà. On va pas faire la même chose en supprimant la Russie de l'histoire. Donc qu'il y ait un minimal ambassadeur, ça me paraît normal.
Mm-hmm. Alexandre.
Oui, pour une fois, je suis assez pour le en même temps. Je pense que c'est quelque chose d'habile, puisque même si on est en conflit avec Vladimir Poutine, l'enjeu c'est qu'on a un voisin qui s'appelle la Russie et de pas coaliser le peuple russe derrière. Son chef, donc je pense que c'est une décision politique plutôt habile, mesurée, et pas non plus tombée dans la culture de l'effacement qu'on dénonce par ailleurs.
Très bien. Eh ben, écoutez, Sabrina,
on est vraiment d'accord.
On est d'accord. Et Louis,
tout ce qu'il vient de dire,
Ragnel,
le contexte, parce qu'on en parle quand même un peu moins, mais c'est aussi le diagnostic des services de renseignement occidentaux, c'est que ça va très mal en Ukraine. L'armée ukrainienne perd des kilomètres carrés par kilomètre carré. Et ce qui est assez... Parce qu'eux, la projection qui est faite par les services occidentaux, c'est que dans 6-8 mois, ça va être très compliqué pour l'armée ukrainienne de faire face à la Russie, qui est en train de doubler la présence de ses soldats sur le front. Donc là, on a quand même l'impression qu'on se dirige vers une sorte de cul-de-sac pour l'armée ukrainienne...
Malheureusement.
Sur son territoire.
On va faire une petite pause. Merci à vous, Aminel Katmi. Merci pour votre courage et vos paroles si fortes. Dans un instant, on continue à évoquer la réponse israélienne après l'attaque iranienne avec Manuel Valls, ancien Premier ministre. Il est notre invité ce soir. À tout de suite. 18h39, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Alexandre Devecchio, Rachel Kahn. Notre invité ce soir, c'est Manuel Valls. Bonsoir Manuel Valls.
Bonsoir.
Merci d'être ce soir sur nos antennes. Israël est dans une position où il ne peut pas ne pas riposter face à l'attaque de l'Iran. On a entendu Georges Bensoussan, historien, qui disait que c'est impossible que Israël ne montre pas qu'on ne peut pas l'attaquer impunément. Est-ce que cette réponse doit être mesurée? Est-ce que vous appelez comme toutes les capitales occidentales à la retenue, attention à l'escalade, c'est ce qu'on entend énormément. Vous comprenez ce discours ?
Je lisais hier, ou je relisais un très beau livre de votre consoeur Sylvie Kaufmann sur la Russie et l'Ukraine, et notamment sur la réaction des Occidentaux après l'invasion de la Crimée par Vladimir Poutine en 2014. Et je retrouvais ces éléments de langage que vous venez d'évoquer.
Pas d'escalade de la retenue.
Pas d'escalade de la retenue, bien évidemment. Personne n'a envie d'un conflit, d'une extension, encore moins d'une troisième guerre mondiale. Enfin, regardons objectivement ce qui s'est passé. L'Iran, pour la première fois, le régime des Mollahs, pour la première fois depuis 1979, attaque de manière frontale Israël, certes. Israël, les États-Unis, la Jordanie, les Britanniques, les Français, semble-t-il, ont empêché ces centaines de missiles et de drones d'arriver en Israël. Donc la prouesse technologique, la défense israélienne a réussi, grâce à cette prouesse technologique, à éviter des morts et des destructions. Mais incontestablement, l'Iran, son régime, qui intègre le temps long, teste non seulement Israël, sa capacité aussi d'attaque, mais la réaction des États-Unis et les Occidentaux. Donc nous voyons bien que d'une manière ou d'une autre, avec le temps nécessaire, faisant en sorte que chacun comprenne quelle peut être la réaction d'Israël, l'État hébreu doit réagir. On ne peut pas laisser une telle attaque sans une réaction et sans une solidarité avec Israël. C'est aux Israéliens de décider le type de frappe, mais en fait, trop souvent, je trouve, que ce soit sur l'Ukraine, sur ce qui s'est passé évidemment le 7 octobre, nous semblons réagir comme si tout devait s'arrêter en 2-3 jours, comme si nous n'intégrions pas le temps long. Le temps long, c'est quoi? C'est demain, les Iraniens peuvent posséder l'arme atomique. Il y a un archite qui s'est créé en Iran, bien sûr, en Irak, en Syrie, au Liban. L'Iran utilise le Hezbollah, les milices en Syrie ou en Irak, ces milices au Yémen, les outils qui frappent non seulement Israël, mais qui sont aujourd'hui en train de perturber une partie du commerce maritime international qui passe par la mer Rouge et le canal de Suez. Et on ne ferait rien des sanctions. Le régime iranien est déjà frappé de sanctions. Donc oui, moi j'estime qu'avec la retenue nécessaire, bien évidemment, mais il faudra, à un moment ou l'autre, frapper durement ce régime, oui.
Manuel Valls, vous avez dit la France a, semble-t-il, participé à l'interception de ces drones. Elle l'a fait, c'est, le président Macron l'a confirmé. Est-ce que la France aurait dû faire plus ou est-ce que c'était une espèce de « en même temps »
Non, là, elle est dans son rôle. Le ministre des Affaires étrangères l'a rappelé. Nous avons des bases aux Émirats, une autre en Jordanie. Donc c'est à partir de cette base que des interceptions, pour reprendre les termes, ont été opérées. Mais moi, ce que j'attends des pays occidentaux, européens, des États-Unis bien évidemment, et donc de la France, c'est une très grande solidarité avec Israël, beaucoup plus affirmée que ce que nous avons eu jusqu'à maintenant. On dit, M. Valls dit ça parce qu'il est pro-israélien. Non, c'est pas le sujet. Israël est en première ligne face à l'Iran, face à l'islamisme, avec les manipulations de l'Iran. Tout le monde sait que l'Iran est derrière le Hezbollah, paradoxalement aussi, même s'ils sont sunnites, derrière le Hamas, derrière ces organisations terroristes. C'est un régime qui peut aussi pratiquer, ne l'oublions pas, le terrorisme d'État. Et nous serions là en train d'imaginer une négociation internationale comme celle qu'on a connue. Non, l'Iran veut avoir la bombe atomique. Vous savez, il y a quelque chose qui me frappe vis-à-vis des régimes totalitaires. C'est qu'on ne croit jamais à ce qu'ils disent, à ce qu'ils écrivent. Et l'Iran, depuis 1979, le régime des Mollahs, proclame, pour des raisons politiques, théologiques, religieuses, mystiques, proclame la fin de l'État d'Israël, d'ailleurs qu'il n'appelle pas comme ça, puisqu'il l'appelle l'entité sioniste.
Emmanuel Valls, vous étiez très en colère la semaine dernière contre Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, qui appelait des sanctions contre Israël pour permettre l'envoi de plus d'aide humanitaire à Gaza. Aujourd'hui, tout est pardonné ?
Non, je ne pardonne. Enfin, ce n'est pas une question ni de colère ni de pardon, mais ces déclarations sont peut-être à remettre dans le contexte. Parler de sanctions à l'égard d'Israël à partir de ce qui se passe à Gaza, alors même que quelques heures ou quelques jours après, Israël subissait une attaque, parce que c'est une attaque frontale qui n'avait jamais eu lieu, et avec une dimension technologique massive, c'est une faute, je l'ai dit. Là. Bon, évidemment, il peut y avoir un dialogue toujours à la fois sérieux et franc avec le gouvernement israélien, mais Israël, je le répète, est en première ligne. Il y a encore des otages, dont trois de nos compatriotes. Nous avons perdu des dizaines d'otages franco-israéliens. Israël est une démocratie. Donc la menace, elle vient de l'Iran, nous le savons, et c'est dit. Et donc parler dans ce contexte-là, à partir de ce qui se passe à Gaza, de sanctions, ne me paraît pas correspondre au rôle historique de la France et à son rapport avec Israël, qui est un rapport d'amitié, de solidarité qu'il faut poursuivre.
Alors, j'aimerais qu'on écoute, Manuel Valls, le témoignage poignant de Guy Benchimoun, un survivant de l'attaque du 7 octobre, qui se trouvait dans le festival techno dans le désert. Il évoque les traumatismes de ceux qui sont rescapés de ces attaques, de ce pogrom, et surtout le suicide de dizaines de survivants. Écoutez ces mots et on va réagir ensuite.
Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais on a atteint le chiffre de 50 suicides parmi les survivants du festival Nova. C'est un chiffre qui date d'il y a 2 mois. Il se peut qu'il ait augmenté depuis. Il y a beaucoup de survivants hospitalisés contre leur gré. J'ai beaucoup d'amis qui ne sortent plus de chez eux et restent dans leur lit. Moi-même, je ne sors plus de chez moi. Je ne vois pas comment je vais m'en sortir pour le prochain mois. Les aides et le soutien psychologique s'arrêtent au mois de mai. Notre objectif, c'est de retourner travailler. Et que nous, les survivants, on soit assez courageux pour retourner travailler. Il est hors de question de voir nos amis de nouveau plonger en dépression.
Les séquelles des survivants, Manuel Valls, sont terribles à long terme.
Sont terribles, mais vous savez ce qui est terrible, vous, c'est pas un reproche que je peux vous faire, à vous sur ce plateau et à cette chaîne. Mais ce que nous avions les uns et les autres peut-être deviné, c'est qu'on a voulu effacer, c'est une entreprise de négationnisme que vous évoquez souvent, Rachel, oui, de négationnisme du 7 octobre. 1200 tués dans des conditions atroces. Il y a encore des dizaines d'otages. Ce conflit pourrait s'arrêter si le Hamas délivrait tous les otages, si ses dirigeants se rendaient ou partaient. Et les souffrances, y compris des Gazaouis, seraient terminés. Ils sont ce bouclier utilisé par cette organisation islamiste et terroriste. Mais ce chantage aux otages, qui n'est pas suffisamment dénoncé par nos gouvernements, ce chantage terrible, le sort des otages actuels, Ça fait des mois, six mois qu'ils sont... les conditions, les viols, les tortures, les femmes enceintes, sans doute. S'ils sont délivrés, et je le souhaite de tout cœur, on nous dit que beaucoup, malheureusement, sont décédés. Mais avec quel témoignage, après ce que nous venons d'entendre, eux reviendront-ils après avoir passé 4 mois de plus que ceux qui ont pu être, heureusement, délivrés, libérés? Donc c'est effrayant ce que cette organisation terroriste et islamiste fait subir aux Gazaouis et a fait subir et fait subir aujourd'hui aux Israéliens, dont 3 de nos compatriotes.
Rachel Kahn, une question?
Alors, j'ai une question, effectivement, je partage sur le traumatisme à la fois des Gazaouis, à la fois de ces rescapés, mais aussi, on sait très bien que ces traumas-là se transmettent de génération en génération. On en a pour preuve Georges Perec, qui n'avait pas pu connaître ses parents après la Shoah et qui s'est suicidé aussi. Et la question que je voulais vous poser, moi, c'était par rapport au droit international et par rapport à cette situation. J'ai l'impression que le droit international n'est plus à la page, que le droit international est à la traîne par rapport à la situation terroriste, en fait, dans cette région-là.
Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, dans les semaines, dans les mois qui viennent, quand ce conflit sera, je l'espère, terminé, même s'il faut travailler beaucoup sur l'après, sur la reconstruction de Gaza et sur les différentes solutions politiques qui devront être très imaginatives, hein, qui ne doivent pas répondre aux éléments de langage du Quai d'Orsay. On doit s'en éloigner, mais il ne faudra pas lâcher l'affaire, si vous me permettez cette expression, sur le rôle de l'UNRWA, sur sa complicité dans les exactions à partir d'un certain nombre de ses membres. Je m'étonne.
Une des filiales de l'ONU, hein, c'est ça?
Oui, une des filiales de l'ONU qui s'occupe du statut des réfugiés, des Palestiniens, que son directeur soit toujours en place, est pour moi évidemment une absurdité. Sur la traduction devant la Cour pénale internationale des responsables du Hamas, sur les traumas, jamais la société israélienne, sinon avec des rescapés de la Shoah, mais évidemment dans un autre cadre, dans un autre contexte, n'aura connu un tel traumatisme profond. C'est raison de plus pour être en solidarité avec le peuple israélien.
Une question peut-être d'Alexandre Devecchio sur la situation politique en France.
Sur peut-être la géopolitique, sur la situation de l'Iran. Enfin, on revient un peu sur la question iranienne, pardon. Emmanuel Macron a parlé de la Russie comme d'une menace existentielle pour l'Europe. Vous avez rappelé tout à l'heure que l'Iran pouvait potentiellement avoir l'arme nucléaire. Est-ce que ce n'est pas aussi une menace existentielle pour l'Occident?
Bien sûr, et d'abord pour Israël. Il faut toujours penser à Israël entouré d'États hostiles, beaucoup manipulés aujourd'hui, d'organisations hostiles, manipulées par l'Iran, même s'il y a une bonne nouvelle. C'est la réaction de la Jordanie et des pays, notamment...
L'Arabie Saoudite.
L'Arabie Saoudite et des pays notamment qui demain seront dans le cadre des accords d'Abraham, que beaucoup ont sous-estimé et critiqué, mais qui sont très importants. Bref, de l'islam sunnite, des pays arabes sunnites. Mais pour Israël, c'est un problème d'existence. C'est un problème d'existence, c'est un problème existentiel. Donc ça nous concerne, nous. Donc je ne veux pas exagérer les menaces ici ou là, mais évidemment que l'Iran a un objectif, comme d'autres pays d'ailleurs. Je ne crois pas beaucoup à l'axe du mal ou à ces mots, mais enfin, Iran... qui fournit des missiles, des drones à la Russie pour frapper l'Ukraine. Le président Zelensky l'a rappelé, les rapports avec la Turquie, avec la Chine. Ils ont tous le même discours. Un discours contre l'Occident, contre ses valeurs, contre la démocratie.
Contre les démocraties. Manuel Valls, en France, la situation politique est inquiétante. La France insoumise ne cesse de jeter de l'huile sur le feu. Une conférence doit se tenir à Lille avec Rima Hassan, qui figure sur la liste des insoumis aux européennes, et Jean-Luc Mélenchon, à l'initiative d'une association pro-Palestine, avec un logo où on voit que Israël n'existe plus en réalité, que ce n'est plus que la Palestine. Est-ce que cette conférence doit se dérouler? Est-ce qu'elle doit être interdite? Comment voyez-vous ces manœuvres de la France insoumise?
Il faut la combattre politiquement. Il veut mettre le feu au pays et créer les conditions du chaos.
Jean-Luc Mélenchon.
Oui, la France insoumise, là, dans les universités, demain, dans les quartiers, à travers, en instrumentalisant la question de la Palestine, après avoir pendant des mois tenu un discours antisémite. Moi, le mot antisémitisme ne veut plus rien dire, en diffusant la haine des Juifs et la haine d'Israël, ou la haine des Juifs à travers... la haine d'Israël. Donc moi je pense que, ici ou là il peut y avoir des interdictions, mais le vrai travail il est politique, il est de récupérer l'espace public les amphithéâtres dans les universités, à Sciences Po, ce qui est insupportable, c'est que, par exemple, Mme Albanès, qui est cette rapporteure générale des Nations Unies qui tient des propos antisémites, puisse être accueillie à Sciences Po, et que quand on veut organiser un meeting à Sciences Po contre cette idéologie wokiste ou contre l'antisémitisme, on ne puisse pas le faire. Donc c'est aux organisations politiques, syndicales, à la société civile de se réveiller. Quand il faut interdire, il faut interdire. Mais l'essentiel, c'est de combattre ce discours de haine. Raison de plus pour que, à gauche, si c'était nécessaire, la clarification soit totale et absolue. Pas uniquement à travers Jean-Luc Mélenchon. C'est trop facile. À travers la France insoumise. Il ne peut pas y avoir d'accord, pas avec Jean-Luc Mélenchon, mais avec la France insoumise, avec tous ceux et toutes celles qui soutiennent cette liste, avec le symbole de cette candidature qui fait passer un message très clair quant aux objectifs. Moi, je pense qu'ils n'y arriveront pas à créer les conditions d'une forme de guerre civile. Mais attention, c'est quand même l'objectif, c'était dit tout à l'heure sur votre plateau, de créer les conditions à chaque fois d'une fracture et d'aider au chaos et d'aider à la victoire du Rassemblement national, puisque c'est ça la stratégie de Jean-Luc Mélenchon.
Pour créer le chaos. Rachel, peut-être une dernière question.
Oui, je suis assez frappée parce qu'en réalité, la guerre qui est menée, évidemment, au premier plan, il y a Israël, on le voit bien, et derrière, finalement, cette extrême gauche-là, elle mène une guerre contre l'universalisme. Et je suis assez frappée, vous parliez des associations, la société civile, mais de l'absence de réaction d'institutions comme la DILCRA, par exemple, qui ne réagit pas à ça.
Bien sûr, il y a beaucoup de lâcheté dans les lignes de front. Il y a évidemment l'Ukraine, il y a ce qui se passe au Proche-Orient, il y a la ligne de front de l'islamisme dans nos propres sociétés, avec le soutien, nous le voyons aux États-Unis, nous le voyons en Europe, dans les universités, mais pas seulement, du hockey, de la cancel culture. On ne peut pas revenir à nos petites affaires politiques, savoir quel va être le score des uns et des autres. Enfin, c'est important, j'en suis évidemment conscient, mais les fractures sont tellement puissantes dans la société que sans une réponse très puissante, qui est ce que moi j'appelle une forme de républicanisme de combat, de bataille, il faut une réponse très puissante, sinon on n'y arrivera pas. Et de réveil, parce que sinon ce sont ces extrêmes qui l'emporteront.
Mais qu'est-ce que vous dites aux Français ce soir, Manuel Valls, qui ont peur, qui savent que le risque d'attentat est à son niveau maximum, qui voient l'insécurité, qui...
Il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire la vérité. Nous sommes dans un moment de bascule de l'histoire, en Ukraine, au Proche-Orient. Nous sommes dans un moment où la part tragique de l'histoire revient, où la guerre sous des formes différentes, évidemment la guerre hybride, dans les médias, à travers la désinformation, sur les réseaux sociaux, est là. Et la guerre, la vraie, elle est là aussi au Proche-Orient et évidemment en Ukraine. Donc il faut un réveil, il faut un sursaut, il faut évidemment des moyens pour nos forces de défense ou de sécurité. Il faut un réveil civique. Et que tous ceux qui aiment ce pays, qui aiment cette nation, qui a des atouts, qui partagent ces valeurs républicaines, se mobilisent.
Notre nation est endormie ou pas ?
Ah, en grande, c'est normal, 70 ans de paix, les Français sont, et je le comprends, davantage préoccupés, c'est normal, par le pouvoir d'achat, aussi évidemment par les questions de violence, de sécurité, mais ça nous oblige à un réveil et à une forme de dépassement de nous-mêmes qui me paraît être essentielle. Prenons exemple sur ce que font les Ukrainiens et les Israéliens dans des conditions évidemment très différentes, mais qui savent ce que sont les risques existentiels pour eux.
Merci beaucoup Manuel Valls d'être venu ce soir dans Punchline, CNews Europe 1. Merci Rachel Kahn, Alexandre Devecchio. Dans un instant, Europe 1 Soir et Face à l'Info sur CNews. Bonne soirée sur nos deux antennes, à demain.